السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du mercredi 10 Rabi' al-Thani 1434 de l'Hégire, correspondant au 20 février 2013 d'après le calendrier des chrétiens. طيب. Donc, حياكم الله جميعا. Vous les admins, vous les élèves. Donc, inshallah ta'ala, nous sommes avec le cours numéro 14. Bi'idhnillah ta'ala, nous sommes avec le cours numéro 14. Laissez-moi vérifier. Nous sommes avec le cours numéro 15, afwan. Cours numéro 15 du livre « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». Aujourd'hui, on va parler, inshallah ta'ala, de deux choses. Awalan, de la recherche du licite dans la vie du croyant, ensuite de la fin. De la fin. On commence par la recherche du licite, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, les gens ne s'embellissent pas par une chose meilleure que la sincérité et la recherche du licite. Les gens ne s'embellissent pas par une chose meilleure que quoi? Que la sincérité et la recherche du licite. Naam, il n'y a pas plus beau que d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher ou la rechercher le licite dans yani, son argent, ses biens, ses vêtements et comme ça. Quant à la sincérité, c'est pas la peine d'en parler. Vous savez que celui qui n'est pas sincère, yani que c'est un hypocrite et l'hypocrite n'ira pas au paradis. Al-Muhim. Tayyib, khalli, j'ajoute, après on va parler. Ibn al-Mubarak. Et Mubarak, rahimahullah, a dit, je préfère, écoutez bien ce qu'il dit ici, écoutez, comment quitter les selfs dans la recherche du licite. Je préfère refuser un dirham dont la licéité est douteuse. Je préfère refuser un dirham dont la licéité, c'est-à-dire le fait d'être licite, est douteuse, plutôt que de donner en aumône 200 000 dirhams. Je préfère refuser un dirham qui est douteux, je ne sais pas s'il est halal ou haram, plutôt que de donner au aumône 200 000 dirhams. Naam, c'est facile, peut-être pour certains, de donner 100 euros, 200, 300 euros s'ils sont vraiment riches. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est quoi? C'est de délaisser des choses dont la licéité est douteuse. Est douteuse. Naam, c'est ça ce qui est difficile. Muhammad rahimahullah a dit, il a dit, j'ai entendu Wuhayb ibn al-Ward dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu restais en prière aussi longtemps que ce poteau, il lui a montré un poteau, il lui a dit, si tu restes en prière aussi longtemps que ce poteau, cela ne te serait d'aucune utilité, jusqu'à ce que tu regardes si ce qui entre dans ton ventre est licite ou bien illicite. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si tu restais en prière aussi longtemps que ce poteau, ça va ne te servir à rien jusqu'à ce que tu regardes ce qui rentre dans ton ventre. Est-ce qu'il est licite ou illicite? Il y a beaucoup de gens, mashallah, il peut te faire 100 rak'a par jour. Il fait deux, salam alaykoum, deux, il dit salam alaykoum, deux unités, salam alaykoum, deux unités, salam alaykoum. Comme ça, beaucoup de gens, surtout de la masse, peut te faire 10, 20 rak'a comme ça, 30 facilement. Mais tu le trouves qu'il mange le haram et يعني il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il regarde le haram, il dit le haram, et comme ça. Mais dans le fait de prier, c'est facile. Non, pour certains, c'est très facile. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, a dit: l'homme qui fait preuve de plus d'ascétisme, yani zud, en ce bas monde, même s'il s'y plonge et on est avide, c'est qui? Il a dit, c'est celui qui n'en accepte que les gains licites et bons. Et l'homme qui convoite le plus ce bas monde, même s'il s'en détourne, c'est celui qui ne se soucie pas de savoir si ces biens sont licites ou illicites. Ensuite, il a dit, l'homme le plus généreux en ce bas monde est celui qui s'acquitte généreusement des droits d'Allah Azzawajal, même si les gens le considèrent avare en dehors de cela. Et l'homme le plus avare en ce bas monde, c'est celui qui se montre avare du respect des droits d'Allah, même si les gens le considèrent généreux en dehors de cela. Naam. Le plus essentiel, c'est quoi? C'est les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comme moi, je ne donne pas les droits d'Allah ta'ala, et je ne me soumets pas aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je transgresse ses lois et ses préceptes. Naam. Ensuite, à quoi ça sert, yani, de faire l'aumône comme ça devant les gens et de dire que j'ai construit une mosquée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Naam. Subhanallah al-Azim. Ensuite, le contraire aussi est valable. Quand quelqu'un yani, se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens parlent de lui ou bien disent de lui c'est un avaroula, il doit quoi? Il doit ne pas donner d'importance à cela. L'essentiel avec Allah subhanahu wa ta'ala, je fais des efforts pour faire yani, ce qu'il m'a demandé de faire. Muslim rapporte, il a dit, j'ai rencontré Muawiya ibn Qurra radiyallahu ta'ala anhu. Je crois que c'est un sahabi. Naam, c'est un sahabi. Allahu alam. Il a dit, alors que je revenais du port, il me dit, qu'as-tu fait? J'ai répondu, j'ai acheté pour ma famille ceci et cela. Il m'a posé la question, il m'a dit, d'une manière licite? J'ai dit oui. Alors il m'a dit, faire ce que tu as fait tous les jours, mais préférable au fait de prier la nuit et jeûner le jour. Faire ce que tu as fait, c'est-à-dire faire des efforts pour acheter à ma famille ce qui est halal, est préférable pour moi, naam, que de prier la nuit et de jeûner le jour. طيب الأهوس دابري الأهوس سلام ابن سليمان إلى رابورتي إلى دي سفيان مادي سفيان رحمه الله مادي attache toi à agir à la manière des braves, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire obtenir des gains licites et dépenser pour la famille. Donc, vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf dans le Bukhari, que la personne, quand elle achète quelque chose pour la famille, il a dit, quand c'est halal bien sûr, il a dit, quand la bouchée dans la cuillère, il a dit, tu la lèves comme ça pour la mettre dans la femme de ta bouche, dans la bouche de ta femme, de ton épouse, il a dit, ça donne déjà quoi? Ça donne déjà des hasanat, ça donne des ajr. Subhanallah. Et pourtant tu viens acheter pour la famille, ça va être utile à la famille, naam. Mais quand tu mets l'intention que c'est billah avec l'argent halal, ça va donner des hasanat bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Mouwarriq al-ijli. Mouwarriq al-ijli, rahimahullah. On rapporte de lui qu'il s'installa chez le fils de son épouse. Il s'installa chez le fils de son épouse, nommé Sougri, qui lui apporta un œuf qu'il avait cuit dans une marmite en cuivre. Il lui ramena un œuf qu'il avait cuit dans une marmite en cuivre. Alors Mouarik lui demanda, il demanda à son gendre, il lui dit, d'où vient cette marmite, ô Sougri? D'où vient cette marmite, ô Sougri? Peut-être qu'il avait l'habitude de ne pas l'avoir chez lui. Il lui a répondu, c'est un gage. Rahn, on m'a laissé ça, en gage. Le gage, c'est ce qu'on laisse, yani, en dépôt comme ça, pour garantie, le temps que tu me rendes la chose, je te rends ici ta marmite. C'est un gage. Alors il lui répondit, alors reprends ton œuf. Il refusa d'en manger, car il réprouvait l'usage du gage. car il réprouvait l'usage du gage. Et de toute façon, le gage, il n'est pas permis de s'en servir. Sauf quand c'est un animal, yani on peut le traire si c'est une vache ou là. À cause de quoi? À cause de ce qu'on lui donne à manger en contrepartie. Mais une marmite, on ne doit pas la toucher, ni la voiture, ni rien. Al-Muhim, Abdelaziz ibn Abi Rawad. Abdelaziz ibn Abi Rawad a dit: regardez bien d'où vient le pain qui entre dans vos ventres. Regardez bien d'où vient le pain qui entre dans vos ventres. Ibrahim ibn Adham rahimahullah a dit: ne consomme qu'une nourriture bonne et licite, et on ne te reprochera pas de ne pas prier la nuit et jeûner le jour. Allahu Akbar, c'est vrai, hein? C'est vrai. Ne consomme qu'une nourriture bonne et licite. Et sois apaisé, Inch'Allah, que Yom Qiyamah, on ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas prié la nuit, ni pourquoi tu n'as jeûné le jour. Pourquoi? Car prier la nuit et jeûner le jour n'est pas obligatoire. C'est facultatif. C'est surérogatoire. Allah Ta'ala ne va pas me dire pourquoi tu n'as pas prié la nuit. Pourquoi tu n'as pas jeûné le jour? Je ne parle pas du Ramadan, bien sûr, ni de la prière obligatoire. Mais par contre, il va me dire pourquoi tu as mangé le haram. Pourquoi tu savais que cette chose provenait de l'argent haram et tu l'as mangé. Naam. Ibrahim ibn al-Adham, rahimahullah, a dit, et voilà, on l'a dit ça, Abdelaziz ibn al-Sa'ib rapporte, rahimahullah, il a dit, un pieux prédécesseur a dit, délaisser un danik, danik c'est quoi? C'est une unité monétaire d'autrefois, comme on dit euro, dirham, dinar, et comme ça, il a dit délaisser un danik provenant de ce que Allah Ta'ala réprouve, mais préférable à l'accomplissement de 500 pèlerinages. Allahu Akbar. Délaisser un dinar ou un euro provenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais préférable à l'accomplissement de 500 pèlerinages. Naam. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de gens font beaucoup de pèlerinages, beaucoup de prières, beaucoup de siyam, mais ils ne peuvent pas délaisser, surtout l'argent, même quand ils savent que ça vient du haram. Ah, ils te disent, moi je m'en fous, c'est Allah ta'ala qui m'a donné ce risque. Comme ça, ils disent. Ils disent, c'est un risque, moi je ne le rends pas. Et comme ça, ils prennent des choses alors qu'ils savent que c'est haram. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que yani, c'est une chose difficile, plus ou moins difficile, de délaisser ces choses-là. Ça c'est une preuve de piété, d'ascétisme. Non. Quant à aller au Hajj ou là, c'est très facile. Donne-moi de l'argent, je vais au Hajj 20 ou 30 fois. Mais délaisser le haram ou les choses douteuses, c'est ça ce qui est difficile. Et ça ce qui montre la preuve entre quelqu'un qui craint Allah et qui ne craint pas. Qui ne craint pas, non. Khalf ibn Tamim, rahimallah. Khalf ibn Tamim, rahimallah, a dit: j'ai demandé à Ibrahim l'Adham, depuis quand es-tu dans le Shem? Il répondit: depuis 24 ans. Ensuite, il a dit: je ne suis pas venu pour la garde aux frontières, ici au Shem, ou bien le djihad, mais je suis venu pour me rassasier du pain licite. Naam, ça fait 24 ans que je suis ici, juste pour manger le pain halal. Je ne suis venu ni pour djihad, ni pour autre chose. C'est juste pour me rassasier, moi et ma famille, de choses halal, de pain licite. Naam. Abdelrazzaq, rahimahullah, rapporte. Il a dit: Muammar, rahimahullah, mangea un fruit chez lui, un fruit, une fois. Ensuite, il demanda d'où il provenait. Il a dit: j'ai pas demandé d'où vient ce fruit. On lui dit: c'est un cadeau d'une telle. C'est un cadeau d'une telle qui pleure sur les morts. C'est un cadeau d'une telle qui pleure sur les morts. Alors il se leva et se fit vomir. Alors il se leva et se fit vomir. Ça me rappelle ce qu'il y a dans le Bukhari. Que une fois, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu a rencontré quelqu'un qui lui a offert un peu de lait. Après avoir bu, alors Abu Bakr demanda. Il a demandé, ou plutôt l'autre dit, je crois que l'autre a dit sans avoir demandé. Il a dit que, ou alors il lui a demandé, j'ai oublié. Al-Muhim, il lui a dit: d'où tu détiens ce lait? Il lui a dit: j'ai avec un peu d'argent que j'avais que j'avais épargné autrefois, j'avais caché, que j'avais gagné autrefois dans la djihadi avant l'islam, quand quoi? Quand je présageais, je prédisais, etc. Il faisait un peu comme ils appellent eux Madame Soleil. Il donnait des voilà ce qui va t'arriver demain, voilà, comme un devin. Il a dit, c'est de l'argent que j'ai caché d'autres fois, mais alhamdoulilah, maintenant j'ai fait tawba, etc. Alors Abou Bakr Siddiq, sur le champ, a rentré ses doigts, ou alors son doigt, dans son gosier et a vomi le lait. Sur le champ. Dès qu'il lui a provient de telle chose, il a rentré ses doigts dans son gosier et il a essayé de sortir le lait qu'il venait de boire. A dit dans le Bukhari. Shu'ayb ibn Harb, rahimahullah. Shu'ayb ibn Harb, rahimahullah, a dit, ne méprise pas un seul sou, ne méprise pas un seul sou dans lequel, un seul sou dans le gain duquel tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce n'est pas le sou qui est visé, mais l'obéissance d'Allah. Il se peut que tu achètes un légume avec ce sou, et qu'il ne soit pas parvenu à ta bouche sans qu'on t'ait déjà pardonné tes péchés. C'est-à-dire, c'est dire quoi? C'est dire la grande valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala et en islam de l'argent quand il est licite. Et ce qu'on achète avec, et comment ça fait quoi? Ça fait annuler les péchés, bi-idhnillahi ta'ala. Enfin, Saïd ibn Abdelaziz, rahimahullah, a dit, celui qui amasse des biens, écoutez bien ce qu'il dit, on va terminer ce chapitre avec cette phrase. Celui qui amasse des biens en toute injustice, celui qui amasse des biens en toute injustice, alors Allah Azzawajal, lui amènera la pauvreté en toute justice. Allahu Akbar. Celui qui s'enrichit en toute injustice, alors Allah Ta'ala va l'appauvrir en toute justice. Non, mais il lui a pas fait du dhulm. Il lui a dit, ne prends pas le haram. Lorsqu'il a transgressé, il a pris le haram, il s'est enrichi. Allah Ta'ala va l'appauvrir quoi? Va l'appauvrir en toute justice. Et ce n'est pas du dhulm pour lui. Et maintenant, inchallah Ta'ala, on va passer au passage, on va passer la fin. La fin. Ça a un rapport avec ce chapitre. Car Yani, ça parle que comment les gens restaient enfin, Yani, avec la faim et ne voulaient pas manger le haram bi-idhnillahi ta'ala. Une seconde, inchallah ta'ala. Avant cela, j'ai oublié une chose. Naam. J'ai oublié que il y avait un hadith très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, dans la recherche du licite. Naam. Où le prophète alayhi wa sallam a dit. Dans ce hadith, regardez. Kullu jasadin nabata min suht, fannaru awla bihi. Il trouve dans Sahih, il y a le hadith de Cheikh Abdel Nadi, Sahih dans Sahih al-Jami', 4519. À peu près, ça donne à peu près ça en français. Tout corps qui naît, ou la toute chair, yani la chair de notre corps, qui naît, qui provient de l'illicite, doit passer d'abord par le feu. Naam. Quand quelqu'un va quoi? Va devenir par exemple obèse. Naam. Donc la chair, elle dit, ou là, le nouveau corps qu'il a. Naam. D'où est venue cette chair-là? Elle est venue de l'illicite. Quand c'est illicite, bien sûr. Comment enlever cette chair-là? Elle doit d'abord passer par le feu. Elle doit d'abord passer par le feu. Sauf si bien sûr la personne a fait le repentir, comme vous savez. Donc maintenant, chapitre la fin. Chapitre la fin. Yasir ibn Numayr, rahimahullah. Yasir ibn Numayr, rahimahullah, a dit. Bon, pas celui-là, Ibn Sirin. Ibn Sirin, rahimahullah, rapporte. Il a dit, un homme dit à Ibn Omar, il lui dit, veux-tu que je te prépare une décoction? Veux-tu que je te prépare une décoction? Abdullah ibn Omar a dit, qu'est-ce qu'une décoction? L'autre, il lui a dit, une chose que tu prends lorsque tu as une indigestion, afin de la faire disparaître. Quand tu as une indigestion, on prend, yani, décoction. Alors Abdullah ibn Omar lui répond, je n'ai pas été rassasié depuis 4 mois. Et ce n'est pas faute de moyens, mais j'ai connu des gens qui, parfois, étaient rassasiés et d'autres fois, éprouvaient la faim. Donc, ce n'est pas pour un manque de moyens, mais il lui a dit, j'ai connu des gens qui, quoi, qui parfois étaient rassasiés et d'autres fois, naam, éprouvaient la faim, éprouvaient la faim. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, par celui qui détient mon âme dans sa main. Il a dit, j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur présentait quelque chose, ils mangeaient sans se soucier que ça soit chaud ou que ça soit froid. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur présentait quelque chose, ils mangeaient sans se soucier que ça soit chaud ou que ça soit froid. Naam. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit. Il a dit, deux choses durcissent le cœur. Deux choses durcissent le cœur. L'abondance de paroles et l'abondance de la nourriture. Deux choses durcissent le cœur. L'abondance de paroles et l'abondance de nourriture. Naam. L'abondance de paroles, c'est clair. Naam. Quand quelqu'un parle beaucoup, naam, il commence, et petit à petit, il devient et dur. Non, il parle beaucoup. Car quand quelqu'un parle beaucoup, il va dire n'importe quoi, comme vous savez. Il va dire n'importe quoi. Il va mentir, il va raconter des blagues, il va peut-être dire des choses mal placées comme ça. Pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup. Et celui qui parle beaucoup, il ne médite pas sur ce qu'il dit. Sur ce qu'il dit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu que quoi? Qu'il ne parlait pas beaucoup. Qu'il ne parlait pas beaucoup. Et quand il parlait, c'était de la sagesse ce qu'il disait. Quand il dit une phrase, une seule phrase, on peut écrire de cette phrase un livre de 500 pages. Tellement tout ce qu'il dit, c'est sagesse. Mais quelqu'un qui parle beaucoup ne peut dire des choses comprenant de la sagesse. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il dit n'importe quoi. Et vous remarquez que, nous on est des hommes, il y a des femmes aussi. Il y a des hommes qui parlent beaucoup, il y a des femmes qui parlent beaucoup. Quand nous, on rencontre quelqu'un qui parle beaucoup, on voudrait l'éviter. Tellement, il dit n'importe quoi. C'est ça, parler beaucoup, dire n'importe quoi. Non. Tu préfères, ne pas le rencontrer. Parce qu'il va dire n'importe quoi. Les femmes, c'est connu. Non, les femmes, c'est connu. Les femmes, c'est connu que beaucoup d'elles parlent beaucoup. Beaucoup d'elles parlent beaucoup. Et quand on parle beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? On va durcir notre cœur. On va durcir notre cœur. Et la même chose pour celui qui mange beaucoup. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Abed, Ibn Abed al-Ramali, rahimahullah, rapporte. Il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, on a, ici c'est écrit la recherche du licite, mais c'est pas vrai, c'est la fin. Non, c'est un programme qui écrit ça, donc. Normalement, il écrit la fin, mais il est mal programmé. Donc, Mousselim, à chaque fois qu'il écrit la recherche du licite, toi, tu écris la fin, en majuscule. Taïb. Voilà. Abed ibn Abed Ramali, rahimahullah, rapporte, on a dit que l'abondance de nourriture faisait disparaître la clarté de la compréhension. Et entraîner la dureté du cœur et le sommeil. Subhanallah. C'est ce qu'on vient de dire. On a dit, c'est-à-dire les salaf ont dit, que l'abondance de la nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait disparaître la clarté de la compréhension. Naam. Quelqu'un qui mange beaucoup, c'est pas possible, yani, qu'il comprenne vite les choses. Alors, qu'en est-il qu'il comprenne vite le dîn? Les choses du dîn, yani, ça demande une clarté dans le cœur. Et pour que le cœur soit clair, il ne faudrait pas yani, l'entraver, lui mettre des embûches. Parmi les grandes embûches, c'est quoi? C'est l'abondance de la nourriture. Non. Elle fait disparaître la clarté de la compréhension et entraîne la dureté du cœur, entraîne le sommeil. Quelqu'un qui mange beaucoup, bien sûr, voudrait vite yani, dormir, et beaucoup dormir. Non. plus la dureté du cœur, l'iyadou billah. Malik ibn Dinar, rahimallah, a dit, il ne convient pas aux croyants que son ventre soit sa principale préoccupation et que ses désirs le dominent. Naam, il ne convient pas aux croyants que son ventre soit sa principale préoccupation et que ses désirs le dominent. Ça ne convient pas aux croyants. Ma vraie préoccupation doit être quoi? Yani, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment apprendre la science? Naam, comment faire des amis qui ont la science pour s'asseoir avec eux, apprendre d'eux et comme ça. Naam, comment être épargné de l'enfer demain quand je rencontre Allah? C'est ça mes préoccupations. طيب, Yusuf ibn al-Asbat, rahimahullah, a dit, la faim est la source de toute bonté sur terre. La faim est la source de toute bonté sur terre. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, le musulman considéré comme une atteinte à son honneur qu'on lui dise « tu es ventru ». Le musulman autrefois, considéré comme une atteinte à son honneur, qu'on dise de lui, tu es ventru, tu as un ventre gros. Qais ibn Rafi' rahimahullah a dit, malheur à celui dont la religion est sa vie d'ici-bas et dont la préoccupation est son ventre. Malheur à celui dont la religion est, c'est quoi sa religion? C'est sa vie d'ici-bas, pas l'au-delà. Et dans la préoccupation, c'est quoi? C'est son ventre. Naam, il ne cherche que à rassasier son ventre. Ensuite, si au moins c'était par le hadal. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai préparé pour Ibn Abbas et ses compagnons, radiallahu anhum, différents mets et de la marmelade de dattes. Il me dit, oh Saïd, nous sommes des Arabes, alors prépare-nous du tarid à la place de tous ces mets-là. Et de la pâte de date au lieu de la marmelade. Naam, nous sommes des Arabes, prépare-nous ça. Ça nous suffit, bi'idhnillahi ta'ala. Abu Imran al-Jawni, rahimahullah, rapporte. Il a dit, on disait que celui qui veut illuminer son cœur, alors qu'il diminue sa nourriture. Al-Muhim. Abu Imran al-Jawni, rahimahullah, rapporte, il a dit, on disait que celui qui veut illuminer son cœur alors qu'il diminue sa nourriture. On disait que celui qui veut illuminer son cœur, qui veut que Allah Ta'ala lui descende la lumière dans le cœur, alors qu'il diminue sa nourriture. Ibrahim al-Hajjaj, rahimahullah, a dit, pas un fils d'Adam n'est plus aimé de son démon, de son shaitan, que le dormeur gourmand. Il n'y a pas un être humain plus aimé de son démon que le dormeur gourmand. Que le dormeur, quelqu'un qui dort et qui est gourmand. Il n'y a pas plus aimé que celui-là. Al-Rabi' rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Shafi'i rahimahullah, Shafi'i, dire, je n'ai pas été repu depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mangé, mais je n'ai pas été repu depuis 20 ans. Naam. Mohamed ibn Fudayl rahimahullah a dit, ce bas monde est ton ventre. Ainsi, en fonction de ton ascétisme, ton zoud, concernant ton ventre, va se réaliser ton ascétisme en ce bas monde. Il a dit, ce bas monde, c'est ton ventre. Et ainsi, en fonction de ton zoud et ton ascétisme concernant ton ventre, va se réaliser alors ton ascétisme en ce bas monde. Et enfin, je vais terminer avec ce qu'a dit Ibrahim Adham rahimahullah, il a dit: celui qui maîtrise son ventre maîtrise sa religion. Il a dit: celui qui contrôle la faim contrôle les nobles caractères. Il a dit: la désobéissance à Allah azzawajal est éloignée de celui qui éprouve la faim, et elle est proche de celui qui est repu. Il a dit: la satiété, le fait d'être repu, la satiété fait mourir le cœur, et elle amène la joie, l'allégresse et le rire. La satiété fait mourir le cœur, et elle amène la joie, l'allégresse et le rire. D'ailleurs, même chez nous, subhanallah, il y a comme un dicton. Il y a comme un dicton très connu. Je ne sais pas si c'est chez nous seulement les Algériens ou chez tous les Arabes. Peut-être les Marocains et Tunisiens, peut-être ils connaissent ça aussi. Chez nous, on dit: Ida shab'at al-kirsh, ou la kitchba al-kirsh, trop l'arras renné. C'est-à-dire, quand le ventre est plein et repu, il dit, il chante. Et c'est vrai, quand quelqu'un est repu, est-ce que quelqu'un est repu, il est à fond, il a mangé, il est presque à vomir. Celui-là, il penche beaucoup plus maintenant, peut-être, à méditer le Coran ou bien à chanter. À chanter. Dès que quelqu'un est repu, il se met sur son dos, sur son lit, il commence à chanter. Mais si quelqu'un qui est comme ça, repu, tu vas lui dire: viens, on va lire un peu le Coran ou là, il ne peut pas. Non, son ventre, est vraiment, vraiment plein. D'ailleurs, je vais ajouter des choses, maintenant le cours est fini. Je vais ajouter une ou deux choses ici, Inch'Allah Ta'ala. Regardez ce qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dans Sahih al-Bukhari. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le sahabi très connu, était connu que il n'y avait pas quelqu'un qui a rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que lui. Et pourtant, il n'est rentré en islam qu'après Khaybar, c'est-à-dire à la 7e année après l'Hijr, subhanallah. Il n'est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ou 4 ans, subhanallah l'adim. Et il n'y a pas quelqu'un qui a rapporté plus de hadiths que lui. Pourquoi? Justement à cause de la faim. Comment à cause de la faim? Naam. Regardez ce hadith dans Sahih al-Bukhari. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Il dit: Kana yaqulun akthar Abu Huraira. Il a dit: les gens disaient de moi, Abu Huraira a exagéré. Abu Huraira a exagéré. A exagéré, qu'est-ce que ça veut dire? A exagéré, c'est-à-dire dans le fait de rapporter des hadiths. Subhanallah l'adim. Tout ce que tu dis, il te dit: j'ai un hadith, j'ai entendu le prophète dire ceci, j'ai entendu le prophète dire cela. D'ailleurs, dans Sahih al-Bukhari aussi, dans Sahih, écrivez numéro 1 si vous voyez ce que j'ai écrit en arabe. Dans Sahih al-Bukhari aussi, il est rapporté que c'est Aïcha. Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a dit une fois, elle a dit cette phrase, elle a dit: Abu Huraira a exagéré. Il raconte des choses, que je n'ai pas entendu du prophète islam. Et dans une autre version authentique, Abdullah ibn Omar aussi a dit: Abu Huraira a exagéré. En moi, Abu Huraira répond dans Sahih al-Bukhari aussi. Dans Sahih al-Bukhari, il dit à Aïcha, il lui dit: oh ma mère, moi, je n'ai pas été préoccupé par le crayon noir. Le crayon noir, c'est-à-dire le crayon avec lequel la femme se maquille les yeux. Elle met le noir dans les yeux. Il lui a dit: moi, je ne me préoccupais pas par cela. Naam. Et il dit aussi: ni le miroir. Ça, c'est en parlant de Aïcha. Et en parlant des autres, Abdullah ibn Omar et des autres, radiallahu anhum, il disait: lam tushghilni safaqat fil aswaq. Je n'étais pas quelqu'un qui était préoccupé par les actes de vente dans les marchés. Acheter ceci, vendre cela. Il dit: tout cela, moi, je ne l'avais pas. Donc, si je rapporte comme ça des hadiths, car j'étais tout le temps avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il dit: wa inni kuntu alzamu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi shab'i batni. Il a dit: Je préférais être tout le temps collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est au détriment de mon ventre, même si je ne mange pas. Hatta la akulu al-khamir wa la albis al-habir. Au point, je ne mangeais ni pain. Pain, masha'Allah, bien préparé, yani, qui sort comme ça, masha'Allah, du chez le boulanger. Rien, il dit, je mangeais ni pain, wa la albis al-habir. Ni j'étais habillé avec les beaux vêtements, avec des rayures, comme ça, rouge et noir. Naam. Wa la yakhdoumouni foulan wa la foulana. Et je n'avais pas, il dit, yani, de valet ou de domestique. Ni homme, ni femme. Qui me travaillait ou là qui m'aidait dans la maison ou là. Wa kuntu ulsiqu batni bil hasba min al-ju'. Et tellement j'avais faim, il disait que je prenais comme ça des petits cailloux, là, des petits blocs comme ça, et je les attachais autour de mon ventre avec yani, un turban comme ça. Il a dit j'attache quelque chose contre mon ventre comme ça pour que mon ventre ne me fasse pas mal. À cause de quoi? À cause yani, de la grande faim, de la grande faim. وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعماني. On a dit des fois, et quand je rencontrais comme ça les Sahaba, car dans un autre hadith authentique, des fois il tombait évanoui. Évanoui de faim. Tellement il a faim, 2-3 jours il ne mange pas, il tombe évanoui. Mais ma'alish, il dit, je suis aux côtés du prophète, je veux apprendre les hadiths. J'entends de lui ce que les autres n'entendent pas, qui sont dans le marché. En train d'acheter de vendre et les femmes qui sont en face du miroir. Moi, je suis là en train d'apprendre, même si je meurs de faim. Al-Muhim, il a dit au point où des fois, quand on astaqri au rajul, des fois, quand il rencontrait des sahabas, qu'est-ce qu'il disait Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Il disait aux sahabis qui le rencontraient, yani, subhanallah, en arabe, il y a des mots, il y a même ça en français, des mots qui ont deux sens et plus. Deux sens et plus. Je crois, Allah, même si j'ai une bonne mémoire, ça s'appelle homonyme. Ça s'appelle homonyme. Allah, reprenez-moi si je me suis trompé. Taïb. Donc, c'est comme en français, par exemple, on dit la mer. La mer, yani, ça peut être notre mère qui nous a enfantés, ça peut être la mer où on va nager. Et, alors, Abu Huraira, quand on rencontrait quelqu'un, il lui disait, Akareni. Aqrini en arabe, aqrini. Aqrini, c'est un verbe qui a deux sens. Ça veut dire, lis-moi quelque chose, un verset ou un hadith. Naam. Et ça veut dire aussi, prends-moi comme invité, prends-moi comme hôte. Et lui, il disait cette phrase dans le sens de, prends-moi comme invité, prends-moi à la maison pour me donner à manger. Mais il ne peut pas dire comme ça, donne-moi à manger. Les sahaba suivez le hadith du prophète Islam qui leur interdisait de demander quoi que ce soit à n'importe qui. Malgré il meurt de faim, alors il joue sur les mots. Il lui dit Akrene, et yani, prends-moi chez toi, donne-moi à manger. Il a dit yani, avec l'espoir qu'il me prenne à la maison pour me donner à manger. Mais les Sahaba, bien sûr, comprennent l'autre sens, comprennent que donc il commence à lui lire du Coran. Il a dit alors que les versets qu'il me lise, je les connais. Je les connais. Non, il a dit, sauf Jafar, une fois, il m'a amené chez lui et il m'a donné à manger. Il m'a donné à manger et en même temps, il m'a lu du Coran. Non. Donc, voilà comment quitter Abu Huraira radiallahu subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des causes pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toute cette science et il est le plus grand rapporteur des hadiths parmi les Sahaba radiallahu ta'ala. Ensuite, regardez ces trois, yani ce hadith qui parle de ces trois gens ici. Attendez, je ne l'ai pas en arabe. Une seconde, une seconde, une seconde. Naam. Une seconde, je le cherche ici en arabe. Un hadith rapporté par le Bukhari, rahimahullah, qui a vraiment rapport avec ce que yani, on vient de dire maintenant sur yani, la fin. La fin. Naam. Taïb. Donc, Ijtama عند البيت. قرشيان وثقافي أو ثقافيان قليلة شحم بطونهم نعم قليلة فقه قلوبهم نعم ensuite c'est en arabe ensuite il a dit قال أحدهم قال أحد l'un des trois a dit أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا خفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ولا جلودكم. Ça donne en français. نعم, ça donne en français. Inch'Allah, pourvu que ça s'affiche, Inch'Allah ta'ala. Ça donne ce hadith. Dites-moi si c'est affiché. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. C'est affiché, alhamdoulillah. Alhamdoulillah. Donc, trois personnes se sont réunies devant la Kaaba, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud les décrit, il dit, leur ventre était plein de graisse et leur cœur ayant peu de compréhension de la religion. Naam. Le premier a dit, est-ce que vous pensez qu'Allah entend ce qu'on dit? Le deuxième a répondu, il entend ce qu'on dit à voix haute, il n'entend pas ce qu'on dit à voix basse. Le troisième a dit, s'il entend ce qu'on dit à voix haute, alors il entend ce qu'on murmure. Alors Allah Ta'ala a fait descendre le verset, vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Voyez. Donc remarquez avec moi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quand il a dit que trois hommes se sont réunis autour de la Kaaba, il a décrit de deux choses. Il a décrit ces gens, ces trois hommes de deux choses. La première, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, ils avaient un ventre, les trois, ils avaient un ventre plein de graisse. Et ils avaient un cœur n'ayant pas de compréhension de la religion. Faible, très faible en ce qui concerne la clarté de la compréhension. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas possible que ça marche ensemble. Un ventre plein de graisse et une compréhension d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète, ça ne marche pas ensemble. Non, on ne peut pas avoir un ventre plein de graisse, être ventru, obèse, et en même temps, et yani, comprendre, mashallah, vite, et comprendre comme ça, et les hadiths, les ayats, ça ne marche pas ensemble. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud, yani, on va dire maintenant, pourquoi que il les a décrits de ces deux choses. Pourquoi il les a, barakallahu fi, donc il est en arabe là. Pourquoi il les a décrits de ces deux choses? Non. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, ils étaient trois. Le premier, écoutez ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez que Allah Ta'ala entend ce qu'on dit? Donc ça se voit que il est vraiment loin de la compréhension d'Allah et de son prophète. Il ne comprend rien à la sharia ni à la aqida. Il a demandé, est-ce que d'après vous, Allah Ta'ala entend ce qu'on dit? Donc c'est grave. Le deuxième aussi, c'est grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il entend ce qu'on dit à voix haute. Et il n'entend pas ce qu'on dit à voix basse. Donc vous voyez, beaucoup de graisse dans le ventre, rien dans le cœur. Et le troisième aussi, c'est trompé. Pourquoi? Il a dit, s'il entend ce qu'on dit à voix haute, il entend ce qu'on dit à voix basse. Apparemment, il a fait une bonne analogie. Apparemment, il a fait une bonne analogie. Naam. Mais pourquoi il s'est trompé? Car il a dit, s'il entend, donc il n'est pas sûr. Il n'a pas dit ça avec certitude. Il n'a pas dit, puisqu'il entend ce qu'on dit à voix haute, alors il entend ce qu'on dit à voix basse. Il a dit non. S'il entend, alors il entend. Comprenez? S'il entend à voix haute, alors il entend à voix basse. Donc il n'est pas sûr. Donc les trois, naam, ont été décrits que ce sont des ventrus, naam, des obèses, mais qui ne comprennent rien sur yani, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète. C'est pour ça que Shafi'i rahimahullah il a dit cette phrase, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'obèse, n'am, yafqah, faqih, qui est quelqu'un en même temps un savant dans la science islamique, sauf celui-là. Et il a montré quelqu'un, un adepte de Abu Hanifa rahimahullah, qui s'appelle Mohamed ibn al-Hassan Shibani. Non. Il a dit, je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un d'obèse et en même temps yani, un savant dans la charia. Il a dit, sauf celui-là, il a montré quelqu'un. C'est pour ça que les savants disent al-bitnatu tunafi al-fitna. Al-bitna, c'est d'avoir le ventre plein. Il a dit tunafi, ça se contredit avec al-fitna, avec la clarté de la compréhension. Ça ne marche pas ensemble. Ou bien il y a bitna, ventre plein, ou bien non, ou bien il y a fitna, yani la clarté de la compréhension. Non. Quand on parle de cela, bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est né comme ça. quelqu'un qui est né avec un ventre obèse ou bien quelqu'un qui est ventru de Allah l'a créé comme ça. Non, on parle de quelqu'un qui est normal et qui a force de manger beaucoup. Il mangeait beaucoup de sucreries, manger. Et il est devenu comme ça. C'est lui qui s'est rendu comme ça. Vous comprenez? Non, mais on ne parle pas de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a né de cette façon. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va passer, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure aux questions-réponses. J'oublierai pas de vous dire deux choses, inshallah ta'ala. La première. À partir de la semaine prochaine, inshallah ta'ala, les cours auront lieu à 19h au lieu de 20h30. C'est comme dans le passé. C'est-à-dire entre Maghrib et Isha. Ensuite, je vais à la Isha et je reviens, inshallah ta'ala, pour faire les questions-réponses. Donc, prochain cours, inshallah, la prochaine fois, à 19h. Naam, c'est pas attendez. Naam, ça, tout le Maghrib, c'est ça. 19h, inshallah ta'ala, 19h10. Inshallah ta'ala. Ensuite, jusqu'au Isha, ensuite, on termine les questions-réponses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous prenez les questions, inshallah ta'ala, deux questions sur le cours et une question hors cours. Comme ça, on va procéder. Deux questions sur le cours et une question hors cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Non, c'est mon cher. Donc, question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Ana. Jazakumullah khayran pour ce cours bénéfique. Ma question concerne le fait de manger dans des snacks ou kebabs, sachant que les vendeurs nous affirment oralement que la viande est halal, mais qu'ils vendent de l'alcool. Est-il recommandé de ne rien acheter chez eux? Faut-il les boycotter? Cher, le mot employé par Abu Huraira radhiallahu anhu est appelé polysème en français et non un homonyme. Un polysème est un mot qui a deux ou plusieurs sens, comme par exemple le mot souris qui peut signifier l'animal ou la souris d'ordinateur, ou le verbe sourire. Wallahu alam, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Juste pour revenir sur l'explication du frère, je ne suis pas convaincu, Allahu alam, parce que là, le mot s'écrit de la même façon. Et dans l'exemple que le cheikh prenait tout à l'heure, le mot ne s'écrivait pas de la même façon. Wallahu alam. Question suivante, donc question d'un frère. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous préserve afin d'être la cause de plein de guidés, bi'idhnillah azawajal. J'aimerais monter un commerce avec un frère et je voudrais savoir s'il est licite de ne pas déclarer tous les gains aux impôts, ou bien cela fait-il partie des mensonges et des moyens illicites afin de gagner de l'argent? Sinon, y a-t-il un moyen d'éviter les impôts par un moyen licite, car généralement l'État est gourmand et peut prendre jusqu'à la moitié des gains en impôts. Donnez-moi la meilleure solution pour espérer en la baraka d'Allah Azzawajal sur ce commerce, Inch'Allah. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. Je suis une sœur et voici ma question. Il y a beaucoup de conflits dans mon couple. Mon mari a un gros manque de motivation pour avancer dans le bien. Il a des difficultés. Il est passionné par le football. Avec tous mes rappels, ma patience et le soutien de personnes de l'extérieur, la situation n'évolue pas. Pourtant, je suis vivement animé par la foi. J'avance à mon allure, alhamdoulilah, et je cherche à faire la hijra. J'ai peur pour ma foi. La famille ne risque pas de vouloir m'accorder le divorce. Je souffre de cette situation, je ne peux plus le supporter. Lui m'aime, mais je ne l'aime pas. De plus, le contact passe mal avec sa famille. Ils ne me comprennent pas, car ignorance et manque de connaissances, cela fait beaucoup de choses pour moi. On m'a même conseillé de lui soumettre un ultimatum en quittant le foyer conjugal. Nous sommes tous les deux très malheureux, énormément éprouvés et souffrons beaucoup. Il n'y a pas de communication ni de dialogue, c'est très dur. Nous avons une fille de 19 mois, je souhaite divorcer. Que me conseillez-vous, cher? Quel est le jugement pour la garde de l'enfant? Qu'Allah vous récompense grandement. Tfadal, cher, et réécrivez-moi car le PV est bloqué. Tfadal, cher. Afwan, cher, pour l'explication du frère qu'il a porté, en fait, il dit que vous vous êtes trompé car vous aviez pris en fait un exemple d'homonyme. Alors que Abu Huraira, radiallahu anhu, prenait l'exemple d'un polysème. Et le polysème, donc en fait, c'est un même mot qui s'écrit exactement de la même façon et qui signifie plusieurs choses. Or, vous aviez pris donc l'exemple de mer, donc la mer al-Bahr, l'océan, et la mer, donc la mère de famille. Et là, on parle d'homonyme, car ça se prononce de la même façon, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Tradasher. Et Barakallahu fait que Akhi d'avoir donné cette explication.
Salam, rahmatullah wa barakatuh. En fait, je n'ai pas compris ce que tu viens de dire maintenant. J'ai compris que yani, c'était pas un homonyme, mais maintenant ce que tu viens de rajouter, je n'ai pas compris. Non, ce que tu viens de rajouter, je n'ai pas compris. Tafadhal, je te donne le micro, inshallah.
Non, cher, la différence, c'est que la souris s'écrit donc à chaque fois de la même façon. Donc le souris, l'animal, tu souris du verbe sourire, par exemple, et la souris de l'ordinateur. Donc là, à trois reprises, ils s'écrivent de la même façon, mais signifient une chose différente. Et la mère, donc la mère, le bhar, s'écrit de cette façon, et la mère, donc la mère de famille, de cette façon. Donc si on les prononce, ils se prononcent de la même façon. Et pourtant, donc il signifie deux choses différentes et s'écrit de deux façons différentes. Donc là, on parle d'homonyme. Et dans la première, les premiers exemples, c'était des polysèmes. Polysèmes. Tfadal
Al-Muhim, barakallahu fih le frère pour cette faïda. Cette faïda, naam. Et alors là, je profite aussi pour dire autre chose. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Naam. Quand quelqu'un a une faïda à dire, ou bien une correction à faire, ou bien une chose à ajouter, naam. Yani pour que, inshallah ta'ala, l'intérêt soit global, il faudrait, inshallah ta'ala, faire le possible pour que ça soit dans le cours, pas quand mon cours se termine. Bon, je parle pas de ce frère-là, non. Là, il l'a fait dans le cours, nous sommes toujours dans le cours, nous sommes dans les questions-réponses. Bon, des fois, quand je ferme le salon, yani il m'arrive de trouver, par exemple, que l'admin m'envoie des choses en offline, ou quelqu'un dit, par exemple, vous êtes trompé dans telle chose, ou bien... Qu'est-ce que ça veut dire, telle chose ou telle chose? C'est dommage, des fois le salon est fermé, c'est trop tard. Et ça m'est arrivé au moins deux fois. Par exemple, il y a deux cours de cela. Quand j'ai fait le cours de la mention d'Allah, je me souviens qu'une sœur, ou alors un frère, c'est pas important, m'avait demandé est-ce que la mention d'Allah, dhikr Allah, est-ce que ça a annulé les péchés? Je me souviens très bien avoir dit cette phrase que pour l'instant je me rappelle pas les hadiths ou là s'il y en a qui disent que ça annule les péchés, mais je me rappelle ce que je sais, c'est que ça donne des récompenses. Ça donne des récompenses. Ensuite, deux cours après ou là, quelqu'un m'a envoyé pour me dire que justement il y a un hadith qui dit que ça annule des péchés. Quand il m'a montré le hadith, j'ai dit subhanallah, hadith pareil, je connais depuis yani des années et des années. Mais au moment où j'ai répondu, et ça arrive à tout le monde, des fois le dalil ne te parvient pas à l'esprit, est loin de ton esprit. Tu te rappelles pas du dalil. Quand on te le montre, ou là, des fois quand je termine le cours, ou là, la nuit, je me rappelle, je me dis, subhanallah al-azim, il y a un hadith très clair, mais il ne m'est pas venu à l'esprit. C'est pour ça que vous voyez des fois même des savants, on leur pose des questions, à la télé, ou là, il dit, je n'ai rien à l'esprit comme dalil dans cette chose. Non. Mais si on lui rappelle quelque chose, il se la rappelle. Un mohim. Le frère Barakallahou fik, dommage que le hadith qu'il m'a donné n'est pas venu à temps, yani pour que les gens qui étaient dans le cours, yani, auraient profité. Mais maalesh, le bien s'il arrive même en retard, il est profitable bi'idhnillah ta'ala. Voilà le hadith très connu. Man qala subhanallah bihamdihi fi yawmin 100 marra, huttat khataya, wa in kanat mithl zabad al-bahr, wa in kanat mithl Zabed al-Bahr, celui qui dit 100 fois dans la journée, Subhanallah bihamdihi, ses péchés seront effacés, même s'ils sont autant que l'écume de la mer, rapporté par Bukhari et Muslim. Et aussi le hadith de quand on termine la salat, on dit 30 fois, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et on termine par là, et là, Allah, ça fait 100. Il a dit alors, les péchés seront quoi? Annulés. Donc, Barakallahu fi pour le akh. Et toute personne yani, qui peut yani, corriger une chose ou bien donner yani, des notations ou des choses comme ça, qu'elle yani, nous fasse profiter de sa science, bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Tayyib. Donc on va maintenant, lorsqu'on était ici, il a dit que le fait de manger dans des snacks ou kebabs, sachant que les vendeurs nous affirment oralement que la viande est halal, mais qu'ils vendent de l'alcool. Je dis, si les vendeurs sont des musulmans connus, yani que yani, ce sont pas des gens qui font les grands péchés. Si lui-même, celui qui me dit ça, il est connu qu'il boit ou qu'il prie pas. Quoi c'est dire qu'il me dit cela? Naam. Mais en général, dans un pays musulman, naam, c'est pas la peine de demander si cette chose est halal ou haram dans un pays musulman. Sauf si, par exemple, le poulet ou là, qui est là devant moi, il vient d'un pays, il vient d'un autre pays, un pays de kuffar. Et s'il vient d'un pays comme la France ou l'Angleterre, ou le plus ou moins, où il y a le, yani ils sont catholiques ou là ils sont chrétiens. Mais le grave, quand ça vient d'un pays de communistes. Quand ça vient du Brésil, quand ça vient de la Russie, quand ça vient. Non, dans ce cas, c'est haram de manger. C'est haram de manger. Tayyib, donc ici, yani, on va voir si ce sont ceux qui disent que c'est halal, si ce sont des musulmans connus, yani, oudoul, connus, yani, dans leur piété, dans leur ceci, dans leur cela. Je demande des gens, qu'est-ce que vous pensez d'eux, est-ce que vous les connaissez, là? Sinon, yani, c'est pas facile dans un pays de kofar de manger comme ça facilement. El Mouhim. Qu'il dit ici, est-il recommandé de ne rien acheter chez eux? Faut-il les boycotter? Naam, si tu n'es pas sûr que la chose est halal, alors prends le hadith. Prends le hadith qui dit, yani, laisse la chose sur laquelle tu doutes à la chose sur laquelle tu ne doutes pas. Comme ça, yani, tu auras, bi-idhnillah ta'ala, le cœur apaisé. Comme ça, bi-idhnillah, tu auras le cœur apaisé. Non, pour la deuxième question, inshallah ta'ala. J'aimerais monter un commerce avec quelqu'un. Je voudrais savoir si de ne pas déclarer tous les gars aux impôts, etc. Pour les impôts, on en a parlé plusieurs fois. Non, les impôts en eux-mêmes, c'est haram. En islam, il n'y a pas d'impôt pour le musulman. Il y a pour le kafir, pas pour le musulman. Donc, si je ne déclare pas tout, non, j'essaie seulement de faire de sorte que je ne monte pas. Comment ne pas mentir? Donc ça revient au frère lui-même qui voit comment. Je donne un exemple. Si par exemple, eux, ils me disent déclare. Voilà la feuille. Écrivez ce que vous avez à déclarer. Par exemple, là. Et moi, j'ai par exemple 100 cartons. Et je vais écrire que voilà, je déclare 10 cartons. En fait, je n'ai pas menti. Je leur ai pas dit que j'ai seulement 10. Je leur ai dit que je déclare 10. Non. Et entre parenthèses, j'ai caché 90. Et ça, je le dis pas. Moi-même, je n'ai pas menti. Il m'a pas dit, est-ce que vous avez seulement 10? Je dis, oui, j'ai seulement 10. Là, j'ai menti. Moi, il m'a dit, déclarer ce que j'ai. Eh ben, moi, je déclare pas tout. Je lui donne pas mon argent. Je déclare 10. Non. Voilà ce que j'ai à déclarer. Ensuite, maintenant, s'il y a un procès, s'il y a, il faut, bien sûr, subir les conséquences. Enfin, pour la personne qui vient de parler du couple, etc., je dis deux choses. Je dis deux choses. La première, ce n'est pas facile de divorcer. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, a fait du mariage une union vraiment, 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 yani, qui a une grande valeur. Écrivez numéro 1. C'est pour cela que je donne comme nasiha. Je donne comme nasiha. Yani, que avant de se marier, il faut bien yani, voir les choses. Ne pas se hâter, se marier avec le premier venu, la première venue, ensuite dire je regrette. Bien faire l'istikhara, bien demander, faire des recherches sur le prétendant et la prétendante. Naam, de tous les côtés, famille, ceci, cela, travail, travail pas, self, pas self. Ensuite, pour ne pas yani, vite, un mois après, 2 mois après, dire je me suis trompé, je regrette. Non. Deuxièmement, il faut toujours donner yani, une occasion à l'autre peut se reprendre. Ce n'est pas vite, yani, il me gêne en telle chose, là j'arrête. Non, mais je lui donne des occasions. Non, je lui fais part de ce qui ne va pas. Non, s'il ne veut pas changer, je fais part à mes parents, ses parents, à des connaissances qui essayent de réparer. Non, c'est comme ça qu'on doit faire. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, j'ai dit une fois et je redis. J'ai dit une fois et je redis. Quand ma femme ou là, mon mari, quand ma femme ou bien mon mari, yani, n'est pas à 100% ou là, n'est pas dans talb al-'ilm ou là. L'essentiel, c'est moi aussi. L'essentiel, yani, il ne m'a pas empêché de talb al-'ilm. Moi, mon mari, quand il me m'interdit pas talb al-'ilm, il me laisse lire, il me laisse écrire, il me laisse aller chez les sœurs pour apprendre, aller à la mosquée, faire venir les sœurs si c'est possible, entendre des cours, ceci, cela. Non. Maintenant, si lui, il veut pas apprendre, eh ben, c'est lui qui va payer demain, c'est pas moi. Non. Et vice-versa. Est-ce que nous tous les hommes, il faudrait que toutes nos épouses soient des talibatouin? Donc maintenant, si elle talibouin, talibatouin, moi talibouin, donc elle va pas aussi s'occuper du foyer ni des enfants. Elle est tout le temps dans les livres et tout le temps en train d'écouter les cours. Ça aussi, ça va me gêner. Donc moi, même si elle n'est pas talibatouin, l'essentiel, elle me laisse talibouin. J'apprends. Non, j'essaie de lui apprendre, elle veut pas ou elle n'a pas de temps ou là de brassard. Mohim, moi, yani, elle ne me gêne pas. Et je lui apprends ce que je peux. Donc ce n'est pas une raison, je pense, Allah Ta'ala, de dire que mon mari ou là mon épouse ne demande pas la science, donc je vais divorcer avec elle. Mais le plus important, c'est est-ce qu'il m'empêche d'apprendre la science? Là, c'est grave. Non, il faudrait faire la différence entre celui qui m'empêche. Et celui qui n'est pas intéressé, lui n'est pas intéressé, tabarasou. Quant au football, ce qu'elle dit là pour le football, non, beaucoup d'hommes sont comme ça. Il y a même des frères avec la barbe et le kamis et qui ne ratent pas un match de football. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nous préserver tous de cela. Non. Donc il y a même des frères jeudis qui sont, yani, ne ratent pas la salat. Mais qui ne rate pas aussi un match de football quand c'est un grand match, etc. Donc, yani, ce n'est pas vraiment une raison que à cause d'eux, il va voir une fois un match, une fois par mois, ou là, par une année, ou là, à la télé, que je vais le divorcer. Je vais divorcer avec lui alors que j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, un croyant ne déteste jamais une croyante. Il a dit, s'il déteste en elle, yani, quelque chose, elle a quoi? Elle a des qualités. Elle a des qualités. C'est aussi vice-versa. C'est aussi vice-versa. Quand une femme, elle déteste quelque chose de son mari, il a aussi des qualités. Subhanallah. Elle déteste de lui le football et ceci, cela. Mais il n'a pas de qualités. Il a aussi des qualités. Donc je conseille à cette sœur, inchallah, de patienter encore, hein, de faire des efforts pour Allah, pas pour lui. De faire des efforts, hein, et Inch'Allah Ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala, yani, faire descendre la sérénité dans son cœur et grouper bi'idhnillahi ta'ala de nouveau entre ce couple bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadhal.
Question suivante. Question d'un frère. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Qu'Allah nous accorde, ainsi qu'à vous, at-taqwa, et qu'il nous réunisse dans Al-Firdaous. J'ai travaillé plusieurs mois au noir. J'ai touché aussi le RSA à tort, car c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas de revenus. Donc le RSA, cher, c'est un revenu minimum qui est donné par l'État en France pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ont de faibles revenus. Mais comme je ne pouvais pas justifier de mes payes, je ne déclarais rien, alors que c'était un mensonge vu que j'étais payé mais au noir. Mon cœur n'était pas apaisé, mais j'ai agi ainsi par faiblesse de foi. Que dois-je faire avec le peu d'argent qu'il me reste de côté, sachant que je me suis repenti et j'ai même refusé de percevoir ma dernière paye à cause de cela? J'ai arrêté ce travail pour diverses raisons et je comptais voyager avec cet argent pour chercher à me marier car ma situation est difficile et le célibat me pèse vraiment. Qu'Allah vous récompense par Al-Firdaous. Puis-je vous rencontrer le mois prochain car je pars en Algérie, Inch'Allah. Barakallahu fikoum ya cher. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith pour ne pas devenir gros. Pouvez-vous me dire le hadith correctement? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense par le bien. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'un de vos derniers cours, vous nous avez donné la dua Allahumma ja'alni min al-akhfiya. Je ne me rappelle plus du contexte et de la signification de cette doua. Pouvez-vous nous l'expliquer, Barakallahu fikoum? Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Pour la première personne, inshallah ta'ala, qui parlait de RSA, etc., je dis maintenant, si elle a fait Tawba, l'âme, si elle a fait Tawba, alors yani, elle peut faire sortir comme ça une petite somme de son argent dont elle pense qu'elle l'a pris sans qu'elle n'ait le droit. L'âme, elle peut donner comme ça yani, quelque chose au nécessiteux pour rendre son argent halal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, est-ce qu'on pourrait se rencontrer le mois prochain, inshallah ta'ala? Je dis, si je suis là. Si je suis là, inshallah ta'ala, on se rencontre. Donc, toi, quand tu viens, téléphone, et ensuite, si je suis là, on se rencontre. Non? Et ne viens pas avec l'argent du RSA. Viens avec le halal, inshallah, comme ça, tu vas payer le resto. Taïb, maintenant, pour le deuxième, c'est qui? Non. Après, il va dire, cher, c'est le RSA, donc moi, je mange pas le RSA, donc je suis obligé de payer. Femme? Viens avec le halal, inshallah. Le prophète aslam a dit un hadith pour ne pas devenir gros. Pouvez-vous nous le dire? Je me rappelle pas. Je dis, je me rappelle pas. Il y a ni de ce hadith. Je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, mais je ne l'ai pas cité dans les cours passés. Allahu alam, a dit dans un hadith, il a dit que il n'y a pas un récipient. Il n'y a pas un récipient plus mauvais que le ventre. Il a dit, si jamais maintenant que la personne yani, veut le remplir, alors qu'elle remplisse un tiers pour le manger, un tiers pour l'eau et un tiers pour respirer. Ça, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si elle parle d'un autre hadith, il faudrait qu'elle me le rappelle, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la troisième question, vous avez donné une fois la doua. Je me rappelle plus du contexte et la signification de cette doua. Pouvez-vous nous expliquer? Moi aussi, je me rappelle pas avoir donné cette doua. Allahumma ja'alni min akhfiya. Je me rappelle pas avoir donné cette doua. Mais je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, yani, les meilleurs des gens, c'était le khafi. Le khafi, celui qui est caché, pas connu. Anonyme, le khafi, le taqi, le pieux, le naqi, le propre. Ça, c'est un hadith authentique. Le meilleur des croyants, c'est le khafi, celui qui n'est pas réputé, n'est pas connu. Khafi, le taqi, le pieux, et le naqi, celui qui est propre. C'est un hadith authentique, inshallah. Tfadlal.
Alors, question d'une sœur. Assalamu alaikum Abu Abdillah. Qu'Allah, Al-Ghafour Al-Rahim, nous enveloppe de son pardon et de sa miséricorde. Je culpabilise beaucoup suite à ce cours. Et Alhamdulillah, j'ai pris énormément de poids pendant mes grossesses et je crains de brûler en enfer pour ces nourritures ingurgitées et pour le tort que j'ai fait à mon corps. Pouvez-vous me conseiller afin que cela ne se reproduise plus? Barakallahu fikoum. Aussi, chers, mes frères et sœurs, j'ai besoin de vos doigts pour Bint, je sais pas si c'est doigts ou don pour Bint Hamid et Bint Belkacem, qui sont beaucoup éprouvés, surtout dans l'éducation de nos enfants. Barakallahu fikoum. Naam, vos doigts, c'est doigts. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Puisse Allah vous récompenser pour vos efforts, chers. Je suis une sœur convertie et je vis chez mes parents. Je n'ai pas de revenus, donc je dépends d'eux. Ils me nourrissent, me vêtissent, etc. Seulement, mon père ne gagne pas une partie de son argent légalement. Et pire, beaucoup de choses qu'il ramène proviennent du vol, même la nourriture, subhanallah. Alors, que dois-je faire, sachant que je n'ai pas les moyens de répondre à mes besoins? Cela me tracasse beaucoup, j'ai beaucoup de waswas et je doute de la validation de mes actes et qu'Allah ne m'exauce pas à cause de cela, barakallahu fekoum. Donc la sœur suivante, ce n'est pas une question chère, c'est concernant un mail. Assalamu alaikum cher, je voudrais savoir si vous avez reçu mes deux questions que je vous ai envoyées par email au sujet du jeûne et du projet. Barakallahu fekoum. Donc question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher. Je voudrais, Inch'Allah, avoir un conseil de votre part. Cela fait un moment que j'ai commencé des cours d'arabe via Internet avec un frère du Minhaj sérieux dans son enseignement. Les cours se déroulent sur Paltalk. Il y a plusieurs élèves qui suivent les cours. Depuis que j'ai commencé, j'ai beaucoup progressé et cela me fait prendre conscience de l'importance de l'arabe. Alhamdulillah. Pour cela, je me suis investi totalement à cet apprentissage en délaissant tous mes autres cours que je suivais en français. Malgré cet engouement, depuis peu de temps, je me sens mal car je ne sais pas si les conditions du déroulement des cours sont légiférées, à savoir que cela se passe dans une room. Tout le monde peut participer, frères et sœurs, en répondant aux questions et en faisant les exercices. Je précise que c'est une room qui est sérieuse dans l'apprentissage, les élèves sont motivés et assidus depuis le commencement des cours. Mais je me demande si les sœurs ne sont pas une fitna pour les frères, sachant qu'elles répondent aux questions, font les exercices, posent des questions et parfois en répondant, ça leur arrive d'écrire lol ou des sourires. Je ne sais pas si ces conditions d'apprentissage sont légiférées et j'ai peur d'être dans un mal en ayant l'intention d'apprendre l'arabe. Je suis perdu car je ne sais vraiment pas quoi faire, car si j'arrête, je vais perdre ces cours bénéfiques. Et je ne sais pas si je vais retrouver un professeur de cette qualité. Et si je continue, je ne suis pas apaisé sans éclaircissement. Pouvez-vous me conseiller et m'éclaircir? Car j'en ai vraiment besoin. Et éventuellement, si vous pouvez me donner un avis d'un savant sur ce sujet, si vous connaissez Barakallahu fekoum, wa hafizakumullah. Tfadal, cher.
Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Je culpabilise beaucoup suite. Bon, c'est court là. J'ai pris énormément de poids pendant mes grossesses et je crains de brûler en enfer, etc., etc., etc. Donc, je dis la grossesse elle-même, plusieurs fois, yani elle rend la vie, elle ne mange pas beaucoup, même si elle ne mange pas beaucoup. Ce que je voulais dire aussi, Yani, même Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dont on a parlé tout à l'heure, comment qu'il était. Une fois, et ça se trouve dans Sahih Bukhari. Une fois, on lui a donné du lait, il a bu. Au point où il a dit la phrase suivante. Il a bu, il a bu, il a bu. Ensuite, on lui a ajouté, il a dit, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. C'est-à-dire, j'en prends plus, je n'ai plus de place. Et le prophète, aslam, était présent. Il a entendu dire cette phrase. Non, mais il était présent. Et Yannick ne lui a pas dit pourquoi. Donc, quand quelqu'un, Yannick, de temps en temps, il mange Yannick beaucoup, de temps en temps, il mange à sa faim, ça ne fait rien. Mais nous, on parle des gens qui, Yannick, leur ventre, c'est leur seule préoccupation. Non. Et qui mangent, Yannick, des fois, jusqu'à vouloir vomir. Comme une fois, quelqu'un des salafs. Son fils lui a dit aujourd'hui j'ai mangé, je viens d'une fête. Il lui a dit j'ai mangé jusqu'à, yani, le gosier, yani, est plein. Mon gosier est plein. Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit je prends Allah en témoin que si cette nuit tu meurs, que demain je prierai pas sur toi, salat al-janaza, la prière de la mort. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, vous les croyants, ne vous tuez pas, ne vous, dans le sens, suicidez pas. Et celui qui mange jusqu'à ce qu'il meure à cause d'avoir trop mangé, il dit celui-là, c'est comme s'il s'est suicidé. C'est comme s'il s'est suicidé. Donc je dis, yani, que la personne, et puis, alhamdoulilah, la personne pourrait rattraper aussi en jeûnant, par exemple. Des fois, elle jeûne. Le lundi et le jeudi, des fois elle jeûne par exemple 3 jours par mois. Non, tout cela, c'est pour Inch'Allah Ta'ala rattraper yani, les moments où la personne, yani, par exemple, a exagéré, a exagéré. Non, voilà Inch'Allah Ta'ala pour la réponse, Bidna Ta'ala. Et pour les doigts, puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala exaucer. Et puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala exaucer. Pour la deuxième, je n'ai pas de revenus, donc pour la reconvertie, qui vit chez ses parents, Nam, les savants ont dit que elle pouvait manger et que ce sont les parents, bi'idhnillahi ta'ala, qui quoi? Ou plutôt c'est le père ici dans ce cas, c'est lui le responsable, c'est lui qui va encaisser. Pourquoi? Car elle n'a d'autre solution que cela. Elle n'a d'autre solution que cela. Sauf que certains ont dit, elle devrait, inshallah ta'ala, se suffire, yani, sans exagérer. Elle doit se suffire quand elle sent que khalas, elle n'a plus faim, elle arrête sans, yani, encore, sans encore manger, yani, pour exagérer. Non, je dis, mais malgré cela, si la personne, par exemple, avait un peu de revenus, par exemple, non, elle pourrait alors, yani, si c'est possible, laisser une part juste pour le manger. Laisser une part juste pour le manger. Quant aux autres choses, les vêtements, etc., qui viennent du père, c'est lui qui va endosser Yom al-Qiyamah. C'est lui qui va endosser Yom al-Qiyamah parce que tu n'as pas d'autre solution. Non, tu n'as pas d'autre solution. Est-ce qu'il y a une autre solution pour faire entrer de l'argent? Il n'y a pas. Donc ce sont les parents qui sont obligés de dépenser pour moi et ce sont eux qui vont endosser Yom al-Qiyamah. Sauf, comme j'ai dit, s'il y a. Si j'ai une rentrée personnelle ou là, ça je dois l'utiliser surtout pour manger. Ensuite, s'il y en a en plus, c'est pour m'habiller aussi. Non. Inch'Allah ta'ala, le mariage sera inch'Allah ta'ala une solution. Le mariage sera inch'Allah ta'ala une solution. Non. Et pour l'autre question, qui dit que je voudrais savoir si vous avez reçu mes mail au sujet du jeûne et du projet. Je vous ai dit. Depuis que yani, j'ai ouvert, comment il s'appelle, depuis que j'ai le compte Twitter. Maintenant, yani, quand j'ouvre ma boîte, voilà. Quand j'ouvre ma boîte, c'est tous ceux qui sont sur le Twitter qui sont sur ma boîte. Ce qui fait, yani, ça m'est difficile maintenant de trouver yani, quels sont les mails qui sont m'envoyés. Yani, ça se perd au milieu, ça se perd au milieu. Mais je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, ce soir, je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, pour yani, la question à dire du jeûne et du projet. Comment le désactiver? Comment le désactiver? Comment le désactiver? C'est comme une sœur, ça fait longtemps qu'il m'a envoyé que yani, elle voulait, si je pouvais la suivre. Il m'a dit, j'ai lu tel et tel livre, tel et tel livre, et tel et tel livre. Je voudrais pour être plus sûr que vous me suiviez comme ça dans l'apprentissage, etc. Ensuite, j'ai cherché partout son mail. Pour lui répondre, je ne le trouve pas. Pour lui répondre, je ne trouve pas son mail. Non. Taïeb, Whisper. Tu devais m'envoyer quelque chose, n'est-ce pas, Whisper? Est-ce que tu l'as envoyé? Tu as dit, j'envoie ça sur Viber. Ça, je trouve rien. Taïeb. Je voudrais, Inch'Allah, un conseil de votre part. Sur le moment où j'ai commencé des cours d'arabe via Internet, non, je dis pour la sœur. Non, pour la sœur qui dit que, alhamdoulilah, il y a du ilm, etc. Mais il y a des sœurs qui, de temps en temps, écrivent LOL et qui disent MDR, etc., etc. Non, si il n'y a d'autres solutions pour apprendre l'arabe que celle-là, et que d'un côté, tu n'as pas peur des fitnas, il n'y a pas de fitna. Il n'y a pas des frères qui envoient des PV par exemple. Non. Dans ce cas, continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a d'autre solution que cela. Et l'arabe, c'est très très important. Alhamdoulilah. Toi, tu ne participes pas avec ce qu'elles écrivent, elles, en disant l'ol, etc. Toi, non. Non. Tu ne participes que pour yani. Écrire ou la corriger ou la dire ceci ou la dire cela. Non. Dans ce cas, et je dis, à condition aussi de ne pas parler au micro. À condition aussi de ne pas parler au micro. Mais par écrit, c'est tout. Mais par écrit, c'est tout. Si c'est comme ça, tu peux, Inch'Allah Ta'ala, participer. Tant qu'il n'y a pas des frères qui envoient en PV et que tu participes pas toi, ni au micro, ni en écrivant des choses à Tmeskher, MDR, etc. Car c'est la seule façon que tu apprennes. Tu n'as pas d'autre solution. Dans ce cas, yani, comme on dit, darurat tubih al-mahdour. Naam. Et regarde, si jamais, même en prenant ces nasihat, et que tu vois que tu as toujours le cœur qui n'est pas apaisé, dans ce cas, arrête. Dans ce cas, arrête. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera une autre solution. Peut-être qu'Allah ta'ala te donnera une meilleure solution. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve, cher. Pour ceux qui sont obèses, comment les conseillez-vous? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hafizakum Allah, ainsi que nos frères et sœurs. Pouvez-vous nous éclaircir et nous donner la réfutation apaisante sur une shubuha des Rafida concernant Abu Huraira radiallahu anhu, où ils disent que c'est impossible à un homme qui a vécu que peu d'années avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse être l'un des plus grands rapporteurs de hadith. Jazakumullah khayran, hafizakumullah de toutes les fitnas apparentes et cachées. Question suivante. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah azza wa jal vous accorde le firdaous ainsi qu'à nos frères et sœurs. Ma question concerne la polygamie. Sachant que la polygamie peut être mise dans les conditions de mariage, je souhaiterais savoir si le fait de mettre cette condition est un manque de foi venant de la sœur. Et si par la suite l'homme ressent le besoin de devenir polygame, sera-t-il en droit de le devenir? Tfadal cher.
Alaykoum salam, rahmatoullahi wa barakatouh. Je vais lire les questions parce que, à fond, quand tu lisais, je lisais autre chose, j'étais occupé. Maalesh. Whisper. Pourquoi tu m'as écrit, ou là tu m'as envoyé sur le portable ici, le hadith de, plutôt, Skadi ibn al-Jouzi? Non, j'ai pas compris pourquoi. Que dois-je privilégier, l'invocation d'Allah ou bien l'imploration de son pardon? Il a dit, le vêtement sale a plus besoin de savant que d'un. Non, pourquoi tu m'as dit ça? J'ai pas compris. Ça, j'en ai parlé la fois passée. Pourquoi tu me l'as envoyé? Qu'est-ce que tu veux dire par là donc? Bon, je vais lire inchallah ta'ala la première question. Pouvez-vous nous éclaircir et nous donner la réfutation apaisante sur une choubha? Terafida. Je sais pas si c'est celle-là la première question. Est-ce que c'est celle-là la première question, musulman? Concernant Abu Huraira. Là, c'est pas celle-là. Saha. Salam alaikum, qu'Allah vous préserve. Et pour que ceux qui sont obèses, comme on les conseillait, barakallahu fikoum. Un frère m'avait contacté pour un problème de description du site. S'il peut me contacter, car j'ai oublié son pseudo. Donc, pour les personnes qui sont obèses, Nam, c'est premièrement, comme vous savez, le manger. C'est yani, de faire un régime. Et surtout, les sucreries. C'est connu. Et la deuxième des choses, c'est le sport. Le sport, bon, la marche. Ou bien les comment on croit que ça s'appelle ce qu'on fait à la maison yani, on descend, on se relève. Comment ça s'appelle ça? C'est un mot en français. Hein? Je vais vous rappeler. Disons le sport à la maison, classe. Fitness. Allahu alam. Allahu alam. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport et faire un régime. Et faire un régime. Naam. Pour perdre, inshallah ta'ala, dans le poids. Et surtout pour ceux qui sont devenus obèses à cause du manger et non pas qui sont créés comme ça. Mais qui sont devenus obèses à cause. Yani, du manger. Non. Deuxième question. Pouvez-vous nous éclaircir et nous donner la réfutation apaisante sur une choubha des Rafida? Des Rafida, concernant Abu Huraira, ils disent que c'est impossible à un homme qui a vécu peu d'années avec le prophète Islam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse est très simple. La réponse, Allah ta'ala, vous l'avez eue dans le cours. Dans le cours. Non. Premièrement, il n'a jamais quitté le prophète Al-Islam pendant les 3 ou 4 années. Quelqu'un qui ne quitte pas quelqu'un d'un cran pendant 3 ou 4 années, comment se fait-il Yani comment ça se fait-il que ça soit étonnant qu'il n'apprenne pas tout de lui? Nam, il le voit comment qu'il marche, comment il s'assoit, comment il parle lorsqu'il se tait, lorsqu'il se lève, lorsque Subhanallah, tout ce qu'il dit, Nam, va directement dans les oreilles et le cœur de Abu Huraira, radiallahu ta'ala. Nam. Donc, yani voilà le secret. D'ailleurs, on a cité qu'il mourait de faim. Des fois, il tombait évanoui, mais à cause de la science. Ensuite, les Rawafid sont jaloux de lui. Nam, ils le détestent. Ils sont jaloux de lui. Eux, ce ne sont pas des gens du hadith, comme vous savez. Ce ne sont pas des gens du hadith. Nam. Et ils sont jaloux de lui. Comment yani, quelqu'un comme celui-là, yani, qui n'a vécu que quelques années avec le prophète islam, a yani, su tous ces hadiths-là. Tous ces hadiths-là. Ensuite, le prophète, alayhi salam, comme c'est dans Sahih Muslim, il a fait une doua spécialement à Abu Huraira. Il a dit, Allahumma, Habib Abu Huraira ila qulubil mu'minin. Abu Huraira wa ummahu et sa mère. Le prophète a dit, Ya Allah, fais aimer Abu Huraira et sa mère au cœur des croyants, aux croyants. Les savants ont dit, donc toute personne qui n'aime pas Abu Huraira, n'am, ce n'est pas un vrai croyant. Ou alors ce n'est pas un croyant. Car le prophète a dit, fais-le aimer aux croyants. Subhanallah. Et les Rawafid ne l'aiment pas. C'est l'une des preuves qu'ils ne sont pas croyants. Non, les Rawafid. C'est qui les Rawafid? C'est les Perses. Ce sont pas des Arabes, ce sont pas des musulmans à la base. Ce sont des Perses qui se sont cachés derrière Zama, l'amour des gens de la maison du prophète Aslam. L'amour de Ahl-Bayt. Alors que ce sont les gens les plus éloignés de l'islam, les adorateurs de feu à la base. Ce sont des gens qui ne connaissent rien à l'islam, ni connaissent, ni dans les, yani, dans les noms d'Allah et ses descriptions. Walou, Nam, Asma ou Sifat, rien. Rien par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent de lui des choses horribles. Rien par rapport à ses sahaba. Les compagnons sont des kuffars, sauf 7 ou 8 ou 13. Rien par rapport aux épouses du prophète sallam. Aïcha, elle a fait la zina, elle a fait ceci, elle a fait cela. Rien par rapport au Coran. Ils disent le Coran, il est falsifié. Ce sont des kuffars qui quoi? Qui, yani, les chrétiens sont mieux qu'eux. Car les chrétiens, yani, n'ont pas dit des choses horribles sur leur prophète, sur Jésus. Au contraire, ils disent de lui seulement de bonnes choses. Cela, ils disent sur le prophète islam et sur ses épouses et sur ses compagnons. Des choses, yani, a'oudou billah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala les châtier dans cette vie et dans l'au-delà. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala châtier les rawafid dans cette vie et dans l'au-delà. Non. Ma question concerne la polygamie. Sachant que la polygamie peut être mise dans les conditions de mariage, je souhaiterais savoir si le fait de mettre cette condition est un manque de foi venant de la sœur. Et si par la suite l'homme ressent le besoin de devenir polygame, sera-t-il en droit de devenir? Si la sœur met comme condition, yani, qu'il ne se remarie pas, dans ce cas, s'il se remarie, elle a le droit de se séparer de lui et, Wesmo, et l'acte de mariage qu'elle avait fait avec lui devient caduc. Devient caduc. Ça veut dire en lui-même, classe, le mariage est terminé avec lui. Parce qu'elle avait fait comme condition qu'il ne se marie pas et que s'il se mariait, classe. Donc, dès qu'il se marie, elle a le choix, ou bien de continuer avec lui, ou bien d'arrêter. Donc, je dis, c'est permis de poser cette condition. C'est permis de poser cette condition. Et cette condition, normalement, celui qui la pose, c'est qui? Celui qui la pose, ou celle qui la pose, c'est celle qui n'est vraiment pas polygame. Il y a des femmes qui sont connues que, yani, si son mari se remariait, elle en mourrait de jalousie. Elle tomberait morte de jalousie et on va l'emmener à l'hôpital. Ce genre-là, donc il lui est permis, yani, voilà une solution pour elle, de faire ça dans l'acte de mariage. Il y en a d'autres, yani d'autres femmes qui, si on lui dit ton mari s'est marié, elle dit, eh bien, ça ne fait rien. Allah Ta'ala lui a donné quatre. Allah Ta'ala lui a donné quatre, donc il se marie. Donc ce genre-là, c'est pas la peine qu'elle mette ça dans la condition de mariage. C'est pas la peine qu'elle mette ça. Mais pour la jalouse, celle qui sait que si jamais se marie, tout va aller yani à l'eau. Alors dans ce cas, si elle met cela, c'est permis bi'idhnillahi ta'ala. طيب نوت كيسيون ان شاء الله تفضل
Une question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum. Je suis divorcé avec un enfant à charge et une partie de mes revenus provient du RSA. Est-ce de l'argent licite pour nous? Barakallahu fikoum. Donc en fait, chérie, veut juste savoir si c'est de l'argent licite, car c'est un état de kufr qui donne cet argent. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, ma question est en rapport avec l'acquisition de l'argent licite. Est-ce licite de travailler pour un employeur qui ne nous déclare pas, autrement dit au black, qu'Allah vous rétribue pleinement? Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Comment une personne possédée ou ensorcelée peut-elle faire si le djinn parle ou pour le faire sortir ou le faire mourir? Comment peut-elle être consciente de ce qui se passe et se maîtriser pour vaincre un djinn ou un sihr seul? Car c'est très déconseillé de demander à la ruqya, mais quand on ne connaît pas beaucoup l'arabe, qu'on lit très doucement, si on se la fait soi-même, il n'y a pas de crise, comme si c'était une personne qui lit sur nous. Alors qu'on reste malade, que faire? Car les grands chouyours disent que demander à la ruqya est un manque de tawakkul. Doit-on rester malade à vie, patienter, pour éviter de la demander, vu que se la faire soi-même, ça ne marche pas? Également, la femme qui se fait la ruqya elle-même, doit-elle porter le hijab? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Voilà, alaykoum salam. Je n'ai pas compris pour la première question. Pour la sœur qui dit que ça provient du RSA. J'ai pas compris. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de prendre ça ou là? Ça, j'ai pas compris. S'il y a quelqu'un qui peut me faire comprendre, c'est comment la loi en France, tfadal.
Non, mes chers, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État en France donne un revenu minimum pour les personnes qui sont inactives ou alors qui perçoivent très peu. Donc c'est une aide. Et la personne demande tout simplement si cette somme d'argent qui est donnée par un État de kufr est licite. Elle veut tout simplement savoir si l'argent qui provient de l'État est licite ou haram. Tfadal, cher.
Non, si c'est une aide qui vient comme ça, non, et que la personne n'a pas d'autres revenus, elle peut la prendre, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que Allah ta'ala lui ouvre une porte. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte. Mais si la personne yani, avait de quoi yani, faire rentrer par le travail, là, ça aurait été mieux. C'est mieux que ce soit un kafir qui m'aide. Mais là, si je n'ai pas d'autre solution, c'est mieux que d'aller voler ou d'aller faire haram ou je ne sais pas quoi. Même, surtout que ça vient sans que yani, j'ai tendu la main. Mais c'est une aide que donne l'État yani, dans la daroura. Wallahu alam. Autre chose ou l'autre question. Ma question est en rapport avec l'acquisition de l'argent licite. Est-ce licite de travailler pour un employeur qui ne déclare pas? Qui ne déclare pas. Non. Vous savez que la loi interdit cela. La loi interdit cela et qu'on peut payer une amende ou un procès si on est chez quelqu'un qui quoi? Qui ne nous déclare pas. Non. Donc si vraiment maintenant, je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai pas. Au lieu d'aller tendre ma main, il ne reste que cette solution. Je travaille chez quelqu'un qui ne me déclare pas. Là, c'est comme la question précédente. Je n'ai que cette solution. C'est mieux que d'aller faire le haram ou d'aller voler. Non. Mais quelqu'un qui travaille, hein, ne devrait pas faire, yani, comme deuxième travail, cette chose-là. Quelqu'un qui travaille, qui, yani, son argent lui suffit, il ne devrait pas ouvrir une porte de haram. Non. Tayyib, troisième question, inshallah ta'ala. Pour la ruqya, etc. Et la personne ne peut ni faire la ruqya elle-même, ni demander de faire la ruqya. Ni demander de faire la ruqya. Donc, comment va-t-elle faire? Je dis, les savants ont dit que demander d'aller faire la ruqya, ça se contredit avec le tawakkul quand on n'est pas dans la contrainte. Non, quand on n'est pas dans la contrainte. Sinon, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et tous les savants peut-être, que quand quelqu'un est dans la contrainte, il peut faire la ruqya. Il est permis qu'il demande à quelqu'un de lui faire ruqya. Et déjà, en principe, quand quelqu'un sait qu'une personne a besoin de ruqya, ou bien vit une maladie qui a besoin de ruqya, normalement c'est elle qui demande qu'on lui fasse ruqya. C'est la personne elle-même qui propose. Elle dit, est-ce que tu veux que je te fasse ruqya ou que je te ramène quelqu'un qui fait ruqya? Surtout si c'est comme ça, on est sorti des problèmes du hadith. Parce que je n'ai pas demandé ruqya. C'est lui qui m'a demandé qu'il me fasse ruqya. Ça rentre dans le hadith rapporté par Muslim. Man istata'a an yanfa'a akhahu faly'al. Quiconque de vous peut aider son frère, qu'il le fasse. Hadith authentique rapporté par Muslim. Quiconque de vous peut aider son frère, qu'il le fasse. Moi, je suis une sœur. Et je connais une sœur qui a un sihr, etc. Et je peux lui faire ruqya. Je connais la ruqya, je connais le Coran. Donc, moi, je lui propose, je lui dis, si tu veux, laisse-moi te faire ruqya, bi'idhnillahi ta'ala. C'est mieux que de contraindre la personne à ce que ce soit elle qui me demande, pour qu'elle ne rentre pas dans le hadith. Mais je dis, je redis, si quelqu'un est dans la contrainte et qu'il n'a pas de solution que de demander ruqya, ça se fait bi'idhnillahi ta'ala. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il a cité même des délits dont je me rappelle pas maintenant. Naam. Et je crois qu'il a cité le hadith authentique d'une fois où le prophète sallam est passé devant, comme ça, il allait, yani, en voyage, il est passé devant, disons, un village comme ça. Et il y avait une femme qui lui a montré comme ça un bébé. Elle lui dit, celui-là, yani, il n'arrête pas de pleurer ou de je ne sais pas quoi. Dans le sens, fais-lui ruqya. Il l'a pris, le prophète sallam, il l'a pris, il lui a ouvert sa bouche, il lui a dit, Ukhruj aduullah, ana rasulullah, sors ennemi d'Allah, c'est moi le prophète d'Allah. Et, yani, bien sûr, le bébé a été guéri, bi'idhnillahi ta'ala, sur le champ. Je crois que c'est l'un des hadiths qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Naam. Tayyib, qu'est-ce qu'il y a? Tfadhal, inshallah, pour d'autres questions.
Question suivante, et je vous rappelle qu'il est 23h20, inshallah. Question d'un frère. Salam alaikum. Est-ce que faire une mission pour une banque est considéré comme illicite? Qu'en est-il du hadith que les actions ne valent que par les intentions? Et là, il parle donc d'une mission, il parle d'une mission ponctuelle, comme faire une étude sur des clients de la banque. Barakallahu fikoum. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve et vous guérisse. Mon mari et moi, nous sommes fait cambrioler et mon mari avait à la maison de la marchandise d'un autre frère d'un montant approximatif de 1350 euros. On nous avait presque tout volé. Quand l'expert est venu pour analyser ce qui nous a été volé, nous avons dit que des choses ont été volées alors qu'elles ne l'avaient pas été. Mais c'était afin que l'assurance nous rembourse la somme des vêtements. On ne pouvait pas dire que les vêtements avaient été volés car ils n'étaient pas déclarés et pas de facture non plus. Car à ce moment-là, mon mari ne travaillait pas et l'appartement n'était pas à nous. L'assurance nous a donc remboursé et mon mari a remboursé le frère et donné une partie à la personne qui nous prêtait l'appartement pour les dédommagements. Cela est-il correct? Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère, cher, que vous allez mieux, inshallah. Qu'Allah vous soigne ainsi que tous les musulmans malades. Ma question est, je voudrais savoir si la sunna, 4 rakats après salat al-isha, doit se faire directement après salat ou a-t-elle un temps large pour la faire? La faire chez moi est-il mieux qu'à la mosquée ou pas? Et doit-elle se faire après la rawatib de l'Isha ou peu importe? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Walaykoum salam wa rahmatullah. Pour la première question, qu'en est-il pour quelqu'un qui va faire une mission pour une banque? Et le hadith, les actions ne valent que par les intentions. Faire une mission pour les banques, c'est inshallah ta'ala haram. Pourquoi? Parce qu'on va les aider. Donc on va faire une étude pour les aider, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils fassent rentrer l'argent, pour qu'ils fassent l'usure. Vous avez compris? Quant au hadith. Quant au hadith, les actions ne valent que par les intentions. Un hadith, comme vous savez, l'intention ne peut pas légiférer un haram. Quand Allah Ta'ala dit, le prophète dit que quelque chose est haram, on ne peut pas, avec une bonne intention, la rendre halal. Vous avez compris? Une chose est haram. Je ne peux pas, moi, avec ma bonne intention, de dire, voilà, j'ai une bonne intention, mon intention, c'est pas ceci, c'est pas cela, donc elle devient halal. Non. Yani, regardez, regardez. Allah Ta'ala, quand il a dit dans le Coran, quand il a dit dans le Coran, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Et ne penchez pas dans le genre, yani, soyez loin d'eux. Soyez loin des injustes. Écoutez ce verset. Hein. Soyez loin des injustes et pas vers eux. N'am, et pas de penchant vers eux. Pour que le feu ne vous touche pas. Ne soyez pas proche des injustes pour que le feu ne vous touche pas. Quelqu'un a demandé à un savant. Il lui a dit. Non, il lui a dit, moi, je couds. Je couds du verbe coudre. Je couds, non, des habits de X. Il lui a cité quelqu'un de très connu comme quelqu'un d'injuste, comme un tyran comme ça. Non, un gouverneur vraiment, un tyran qui est injuste. Donc, un couturier a demandé à un savant. Il lui a dit, dis-moi, moi, je lui couds ses vêtements seulement. Est-ce que yani, c'est haram? Car il peut se baser sur le hadith, les intentions, yani, les actions ne valent que par les intentions. Moi, je lui couds seulement les vêtements, c'est pas avec l'intention de l'aider de ceci, de cela. Est-ce que je rentre dans le verset, yani, éloignez-vous des injustes pour ne pas être brûlés par le feu? Que lui a répondu le savant? Il lui a dit, non. Yani, toi tu ne penches pas vers eux. En lui cousant son vêtement. Toi, tu es deux. Toi, tu fais parmi deux. Tu fais parmi des injustes. C'est pas tu penches seulement vers eux. Quant à celui qui penche vers eux, vers les injustes, c'est celui qui t'a vendu. C'est celui qui t'a vendu le fil et l'aiguille. Celui qui t'a vendu le fil, l'épicier ou je sais pas comment il s'appelle. Il a un nom. Qui t'a vendu le fil et l'aiguille, lui, il rentre. Il y en a dans ceux qui penchent vers les injustes. Quant à toi, tu lui couds. Toi, tu es à 100% avec eux. Moi, donc je dis à cette personne, attention, la banque, c'est quelque chose de grave. Le riba, l'usure, c'est vraiment, vraiment grave. C'est comme celui qui fait la chose avec sa mère, a'oudou billah. Ça, c'est le moindre péché de la banque et de l'usure. Donc, moi, ya khoya, je ferme cette porte et je demande à Allah Ta'ala de m'ouvrir une porte de halal. Je ne leur fais ni mission, ni je les aide, ni rien, ni rien. Ils font tout. Yani, ils ont des gens qui leur font ce travail. El Mohim, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Qu'Allah vous préserve, vous guérisse. Mon mari et moi, c'est fait cambrioler. Non, ça, j'ai pas encore. Cambrioler à la maison la marchandise d'un autre frère, d'un montant de 1 350 euros. On nous a presque tout volé. Qaddar Allah ma shafa'al. Qaddar Allah ma shafa'al. Ça m'est arrivé au moins deux fois de rentrer dans la maison et de trouver qu'on t'a tout volé. Je dis que yani, ce n'était pas une chose facile. C'est vraiment, yani, ça fait bouger la personne. Ça fait bouger la personne. Surtout quand la femme te dit que on m'a pris tout l'or qu'on avait. Non, ça fait vraiment yani, bouger la personne. Qaddar Allah ma shafa'al. Mais c'était pour l'assurance nous rembourse. Non, tout volé. Quand l'expert est venu pour analyser ce qui nous avait été volé, on a dit que les choses étaient volées alors qu'elles n'avaient pas été volées. Mais c'était pour que l'assurance nous rembourse la somme des vêtements. On ne pouvait pas dire que les vêtements avaient été volés car ils n'étaient pas déclarés. Et pas de facture non plus. Non plus. Car à ce moment, mon mari ne travaillait pas à l'appartement, n'était pas à nous. L'assurance nous a donc remboursé, et mon mari a remboursé le frère et donné une partie à la personne qui nous prêtait l'appartement pour aider. Ceci est-il correct? Muslim. Non, pourquoi elle a parlé ici de la facture, il n'y avait pas de facture, etc. Tfadlal.
Non, cher, concernant la marchandise qui était stockée à l'appartement, elle n'avait pas les factures pour justifier en fait le vol, puisque cette marchandise elle s'est fait voler. Mais quand l'expert il est passé, car en France on fait passer un expert pour qu'il évalue en fait la marchandise, les objets, etc. qu'on s'est fait voler, mais il faut pouvoir justifier de ce qui était donc présent. Et donc là, étant donné qu'elle n'avait pas de facture, donc cette marchandise-là, elle ne pouvait pas en parler à l'expert. Et même si elle en avait parlé, il ne l'aurait pas pris en compte. Car elle ne peut pas le justifier. Donc ce qu'elle a fait, elle a inventé des vols, ou alors elle a gonflé les prix de meubles, ou là, je ne sais pas quoi, des téléviseurs, des choses de valeur. Elle a inventé qu'elle avait ça, pour que l'expert, en fait, estime. Comment vous expliquer? En fait, elle a simulé qu'elle s'était fait voler un téléviseur pour en gros récupérer l'argent de sa marchandise qui avait été volée. Donc elle a menti pour récupérer la valeur de la marchandise qu'elle s'était fait voler. Je sais pas si c'est clair, cher. Elle a inventé des vols. Elle a inventé des marchandises volées qui n'avaient pas été volées. Fada, cher.
Je voulais confirmer, maintenant j'ai compris. Elle ne peut pas déclarer les choses du frère qui ont été volées parce qu'il n'y a pas de facture. Donc elle va inventer des choses, dans des choses, yani, comme quoi on nous a pris par exemple ma chaîne d'or, on m'a pris ceci, cela, alors que c'est pas vrai, juste pour yani, rattraper ce qui n'a pas de facture, Allahu alam. Non. Je dis donc, inshallah ta'ala, l'argent qui a été pris comme ça. Yani, en rapport aux choses qui ont été inventées, cet argent est haram. Non, tout l'argent qui a été pris en des choses inventées, c'est haram. Si tu as dit par exemple, on nous a volé par exemple un lustre, c'est un exemple. Et il n'y avait pas de lustre. Donc, on t'a donné 100 euros pour le lustre. Ces 100 euros sont haram. Pourquoi? Tu les as pris alors que ils ne te reviennent pas. Alors que ils ne te reviennent pas. Donc la solution serait quoi? La solution serait, inshallah ta'ala, de calculer maintenant quelles sont les choses qui ont été prises, ou bien quel est le montant qui a été pris en rapport à ces choses menties. Et cet argent-là, après l'avoir calculé, supposant que c'est 1000 euros là, c'est de faire de ça une dette. Une dette, et de dire que, yani, dès que j'ai cet argent, je le donnerai, je le rendrai billahi ta'ala. Ce n'est pas obligé de le rendre d'un coup, cash, mais à chaque fois j'en donne 10, 20, 50 et comme ça, jusqu'à le rembourser et faire tawba bi'iznillah ta'ala. Deux choses importantes. Faire tawba et rendre l'argent. Rendre l'argent, yani, qui a été pris par rapport à des choses qui n'existent pas. Par rapport à des mensonges. Et vous savez que le mensonge, ça rentre dans les grands péchés. Ça rentre dans les grands péchés, pas les petits. Mais je dis à ce couple, yani, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et de voir comment yani, régler la chose. Car toute chose en islam, toute faute, elle se règle. Toute faute. Bi-idhnillah ta'ala, Allah ta'ala nous a donné comment lui trouver une solution et une issue. Ici, c'est deux choses, faire la tawba et rendre l'argent. Faire la tawba et rendre l'argent, bi-idhnillah, même s'il n'y a pas maintenant l'argent, plus tard, le laisser comme une dette. Naam. Tayyib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question pour la sunna, 4 rak'at après salat l'Isha. Dois-je faire directement après salat ou a-t-elle le temps large? Je dis, la nafila, la sunna, c'est de la faire à la maison. Naam, ne fais pas de nafila dans la mosquée. Mais quand tu pars à la maison, inshallah ta'ala, fais salat l'Isha, ensuite les 2 rak'at après ratiba. 2 rak'at après ratiba. Ensuite, inshallah ta'ala, tu fais les 4 rak'at. Après les 2 rak'at, bi'idhnillah ta'ala, si tu veux laisser un temps, tu peux, par exemple, après les 2 rak'at, tu peux aller manger, par exemple, et faire 4 rak'at après, yani, ces 2 rak'at de la nafila, de la ratiba, bi'idhnillah ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala, dis-moi, inshallah ta'ala, maintenant les 3 dernières questions. Tfadhal.
Non, Inch'Allah, cher, les trois dernières questions. Et avant cela, est-ce que vous confirmez que lorsqu'on vous envoie un mail, on reçoit toujours un mail nous disant que votre boîte est saturée, mais malgré cela, en fait, vous recevez tout de même le mail? Car il y a une sœur qui dit qu'il vous envoie un mail et elle n'a pas reçu de réponse. Première question. Question d'un frère. Salam alaikum. Hayakum Allah, cher. Il est conseillé de manger combien de fois par jour et à quel moment? Barakallahu fikoum. Donc concernant les repas chers par jour, comment les répartir? Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum ya cher. Qu'Allah vous préserve. Ma question est, j'ai appris que parmi les causes qu'Allah ne répond pas à notre doigt, c'est parce que nous mangeons haram. Mais je voulais savoir si aujourd'hui je mets la niya d'acheter de la viande halal, mais qu'en vérité le vendeur m'a menti. Quel est le jugement? Est-ce qu'Allah va répondre à mes doigts du fait de mon ignorance ou bien non? Barakallahu fikoum. Et dernière question pour ce soir, Inch'Allah. Question d'un frère. Assalamu alaikum. Si nous achetons une maison à crédit, a-t-on le droit de faire le hajj sans avoir fini de la payer? Barakallahu fikoum. Cher. Une dernière chose concernant les questions sur le cours. Lorsque je vous précise sur le salon bis, qu'il faut poser uniquement la question sur le cours, c'est inutile de poser toute question qui n'a pas en rapport avec le cours. Elle ne sera pas lue. Et ça concerne n'importe quelle personne que vous venez nous dire que la question est urgente, etc. Vous venez tous nous dire la même chose. Malheureusement, vous nous dites tous que la question est urgente. On le comprend bien. Voilà qu'on ne peut pas faire autrement. La règle, c'est que toute question qui a en rapport avec le cours, elle se pose sur l'autre salon. Et si on vient et si on précise que c'est uniquement sur le cours, ça sert à rien d'essayer de ruser ou d'essayer de la poser, elle ne sera pas lue. Toutes les autres questions sont soit posées sur les questions sur le site du cher ou sur le salon où le cher a fait le cours. Barakallahu fikoum. Tfadal cher, wa jazakumullahu khairan.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Pour le site, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est vrai. Toute personne qui m'envoie quelque chose va recevoir automatiquement quelque chose qui va lui dire que la boîte est saturée. La boîte est saturée. C'est pour cela que moi, cela fait longtemps. Cela fait longtemps que j'ai pris la décision de ne pas répondre sur le site, de ne pas répondre sur le site, mais de répondre comme ça directement sur le PAL Talk. Comme ça, c'est moins fatigant pour moi. Imaginez qu'à chaque fois que j'ouvre le site, je trouve par exemple 30 ou 40 personnes qui m'ont écrit et chacun pose son problème. Et imaginez, maintenant je vais écrire. Alors pour chaque personne, je vais écrire, lui donner les délits, lui donner les hadiths. Lui dire voilà, tu dois te marier avec celui-là, tu dois pas faire ceci, pas faire cela. Hein. Combien ça va me prendre de temps? Donc je passerai mes journées à quoi? À répondre sur le mail. C'est pour cela que ça fait longtemps, au moins 2 années ou quoi, que j'ai décidé de ne pas répondre sur le mail et de yani, d'envoyer un quoi? D'envoyer quelque chose qui dit que la boîte est saturée. Taïeb, deuxième chose. Maintenant, le problème, c'est que même quand j'ouvre, quand j'ouvre de temps en temps pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, des fois il y a des personnes avec desquels j'ai des relations étroites, qui, enfin, on échange des choses, des mails. Un moyen. Maintenant, je ne trouve plus. Tellement il y a ce que j'ai dit tout à l'heure à cause du Twitter. Que yani, X t'a suivi, X vous a suivi, etc. Donc maintenant, même les mails, yani, subhanallah al-adhim, se mélangent avec les autres. Nah. Des fois, nah. Des fois, quand j'ouvre, nah, par exemple, j'ai trouvé un mail. Par exemple, c'est le premier venant, par exemple, de X, de Muslim, alhamdoulillah. Des fois, quand j'ouvre, subhanallah al-adhim, si je trouve que c'est juste une ou deux phrases, une ou deux phrases, est-ce que c'est permis ceci en islam? Est-ce que c'est pas permis? Là, je réponds. Est-ce que c'est permis de boire Coca-Cola? Je réponds vite. Pourquoi? Si c'est juste une question facile, oui, non, ça s'arrête là. Mais quand c'est un cas social, en fait, je vous raconte, ça fait 3 ans que je me suis marié. Avant de me marier, ma belle-mère, femme chez laquelle j'allais passer, ou là, chez, de temps en temps, qui est ma tante, chez laquelle j'allais passer de temps en temps quelques nuits. Femme, la nuit, je prépare des aubergines. Alors le lendemain, je veux dire, là, maintenant, pour lire seulement Hadi, ça va prendre une demi-heure. Alors imaginez qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mails en ce sens. El-Mohim. Moi, j'essaie, Inch'Allah Ta'ala, de faire mon possible pour vous répondre sur le Paltok. Et si vous voulez, peut-être que, yani, on va ajouter comme ça 2 heures ou là, spécialement pour questions-réponses, sans cours. 2 heures ou 3, yani, spécialement pour questions-réponses, sans cours. Comme ça, yani, celui qui a une question, il la pose directement et c'est pas la peine qu'il mette son nom pour que les gens ne savent pas c'est qui cette personne, bi'idhnillahi Ta'ala. Tayyib. Cheikh, est-il conseillé de manger combien de fois par jour et à quel moment? Barakallahu fikoum. Maintenant, cela dépend de la personne. L'essentiel, c'est de ne pas abuser quand on mange. Ne pas abuser, pourquoi? Pour ne pas perdre la clarté et la clairvoyance du cœur. Et pour ne pas durcir son cœur. Chez nous, par exemple, en Algérie, je ne sais pas, musulman, est-ce que tu m'entends, musulman? Et confirme-moi si chez vous, c'est comme nous ou pas. Je vais dire quelque chose, confirme-moi. Chez nous, par exemple, en Algérie. Ou alors peut-être dans notre famille. Dans d'autres familles, je ne sais pas. Bon, on prend le café le matin quand on se lève. Hein? On prend le café avec, s'il y a quelque chose, s'il y a du pain, du beurre, s'il y a des croissants, ça dépend ce qu'il y a. Ensuite, on mange vers midi, entre midi et 1 heure jusqu'à 2 heures, ça dépend aussi de la personne. Ensuite, vers 16h ou 17h, on prend un café, café au lait ou bien café avec du thé. S'il y a aussi quelque chose, on mange, s'il y a un gâteau, s'il y a... Ensuite, on mange la nuit. Vers 21h, 22h, ça dépend. Moi, des fois, je mange vers 23h. Est-ce que c'est comme ça, Mousseline? C'est la même chose. Donc, on est tous à peu près dans la même chose. Là, maintenant, j'ajoute que d'un côté, il faut pas abuser, et de l'autre, c'est bien de rattraper en jeûnant de temps en temps. Mais, là, 23h, c'est pas bien pour quelqu'un qui mange à 23h et dort à 0h. Mais quelqu'un qui dort vers 2h du matin, 3h du matin, c'est loin, femte. Non, ça tu l'as oublié, toi. J'ai appris que parmi les causes qu'Allah ne répond pas à ce doigt, c'est parce que nous mangeons haram. Et si maintenant, yani, je mets la niya d'acheter de la viande halal, mais qu'en vérité, le vendeur m'a menti. Si le vendeur t'a menti, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te châtier à cause d'une faute qu'a fait une autre personne. Toi, tu avais la niya de manger le halal. Et c'est l'autre qui t'a menti. Et toi, tu crois que c'est du halal. Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Et donne des châtiments et donne des péchés à l'autre. Allah ta'ala ne te punit pas pour avoir fait une bonne chose. Avoir fait la niya de manger le halal. Il lui a demandé si c'est halal. Il t'a dit c'est halal. Ensuite, il t'a menti. C'est lui qui va payer bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tayyib, reste une chose. La dernière, salam alaykoum, j'ai appris que parmi les causes qu'Allah ne répond pas à l'ikhlas, si on achète une maison à crédit, a-t-on le droit de faire le hajj sans avoir fini de payer? Barakallahu fikoum. Règle générale, quand on a des dettes envers quelqu'un, on n'a pas le droit de voyager, ou d'acheter des meubles ou une voiture ou là, sans d'abord payer ses dettes. Si quelqu'un a des dettes envers quelqu'un il n'a même pas le droit d'aller au Hajj, qui est un pilier, ou au Umrah, qui est une obligation, sans le consentement du créancier. En fait, c'est logique, c'est logique. Comment? Moi, je t'ai prêté, par exemple, 10 000 euros, là, ou là, 1 000 euros, là, je ne sais pas combien. Et maintenant, au lieu que tu me rendes mon argent, dont j'ai besoin, moi, j'ai besoin de mon argent, maintenant, toi, tu vas au Hajj. Pour moi, je me dis, il est allé se promener. Et même le Hajj, c'est une obligation. Pour lui, pas pour moi. Moi, qu'est-ce que je gagne quand la personne va au Hajj? Moi, je gagne quand la personne me rend mon argent, c'est pas quand elle va au Hajj. Comme a dit Ibn Taymiyyah. Il a dit, Nennes, laïstafidoun. Nam, il a dit, laïstafidoun. Bi kada kada. Innama yastafidoun bi istifa' al-huquq. Inna an-nas la yastafidoun bi tawbati at-ta'ibin wa innama yastafidoun bi istifa' al-huquq. Moi, quand je te prête de l'argent, nam, yani je ne gagne rien quand tu vas au Hajj ou là quand tu achètes une voiture ou là quand tu achètes une nouvelle maison. Moi, je gagne quand tu me rends mon argent. Donc, c'est ça la règle. Quand quelqu'un va au Hajj ou là va au Umrah, il doit demander à la personne qui lui a prêté de l'argent. Voilà, j'ai envie d'aller au Hajj ou la Umrah. Est-ce que tu me permets ou bien tu veux que je te rende ton argent ou là une partie de ton argent? S'il dit vas-y, ma'lish, va au Hajj et quand tu reviens, inshallah ta'ala, tu me donnes mon argent. Tu vas au Hajj. Mais s'il te dit non, je ne permets pas, je veux que tu me donnes mon argent. Tu lui donnes ton argent et tu vas pas au Hajj et Allah ta'ala t'excuse. Allah ta'ala t'excuse. Car tu es endetté, et Allah Ta'ala a dit que ne doit partir au Hajj que celui qui n'est pas endetté, celui qui a les moyens. Il a dit comme ça. C'est pas pour celui qui ne peut pas. Maintenant, si maintenant c'est pas une personne qui nous a prêté de l'argent, mais par exemple une société, comme elle dit ici, attendre, si on achète une maison à crédit, sûrement que c'est une société ou là qui nous a vendu. On va voir. S'il y a avec cette société par exemple c'est pas contravention, une convention entre moi et la société que chaque mois je donne par exemple 100 euros à cette société pour payer ma maison par exemple. Chaque mois je donne 100 euros, c'est comme ça que je dois payer pendant 20 ans. Dans ce cas, je peux voir un contrat. Dans ce cas, je peux aller au Hajj. Pourquoi? Parce qu'en allant au Hajj, eux, la société prend toujours les 100 euros par mois. Elle prend de ma paye, ou bien moi j'ai laissé à mon mari ou à mon fils, je lui dis voilà, chaque mois, le temps que je suis absent, tu donnes, yani, pour les 2 mois, tu donnes donc 100 euros et 100 euros. Dans ce cas, je paye mes dettes et en même temps, je peux aller au Hajj. Pourquoi? Parce que le contrat stipule que je ne paye que 100 euros par mois. Non, j'espère que vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala, la différence entre quand c'est, par exemple, l'État et quand c'est une personne. Non. Voilà, même si c'est une personne et elle m'a dit paye-moi seulement 50 euros par mois, elle m'a dit comme ça, donc je peux aussi aller au Hajj, à condition que chaque mois je lui donne ces 50 euros, bi'idhnillahi Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, subhanakallah, tfadhal. تفضل.
Non, Afouane, chérie, une petite chose sur la question qui vous a été posée sur l'assurance et le mensonge par rapport à l'argent qui a été perçu en trop. Vous avez dit qu'il fallait donc la rendre à l'assurance. Allahu alam, je ne pense pas que ce soit possible, que l'assurance accepte le surplus, car déjà ils vont comprendre qu'ils ont menti. Donc la personne demande tout simplement que doit-elle faire avec cet argent qu'ils ont perçu en trop. Fadal Cher, à qui l'a donné?
Non, c'est bien de poser une question pareille. La première des choses, la personne doit faire tawba, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, ya Allah, pardon, et c'est une faute, c'est shaitan, c'est mon nefs, c'est ceci, inshallah, ya Allah, que je ne referai plus cette chose, bi'idhnillahi ta'ala. C'est la tawba qui est plus importante. Ensuite, la deuxième, l'argent qui a été pris en plus, on le donne à des nécessiteux. On cherche des gens, des nécessiteux, l'âme, des musulmans qui en ont vraiment besoin. On leur donne cet argent, l'âme, avec quoi? L'intention que je suis en train de me débarrasser du haram. C'est pour cela que je dis en parenthèse, il est même permis de le donner à une mosquée. Il est même permis de le donner à la construction d'une mosquée, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen Allahmou, pour l'argent de l'usure. Naam. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quand la personne met tes messages sur le site et Twitter pour les heures des cours. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand la personne fait la tawba, comme j'ai dit, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne meure et ne peut pas amasser la somme qu'elle doit faire sortir. Vous avez compris? Supposons qu'elle a menti pour 1000 euros. Et maintenant, Naam, la Qaddarallah, je ne parle pas de cette personne. Une personne qui a menti pour 1000 euros et elle va mourir, par exemple, demain ou après-demain. Donc, elle n'a rien rendu comme argent, mais alhamdoullah, elle a fait la tawba. Et Allah Ta'ala sait de sa niya qu'elle voulait. Elle avait dans l'intention de rendre, mais elle est morte. Mais si quelqu'un ne fait pas la tawba, vous voyez, c'est grave s'il meurt comme ça. C'est pour ça que j'ai dit le plus important, c'est la tawba. Ensuite, s'il y a l'argent, alhamdoulillah, on doit le faire sortir. Et s'il n'y a pas, qaddarallahu ma shafa'al. S'il n'y a pas, je ne vais pas voler pour le faire sortir. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.